En groupe, parce que pour tous les gens là qui ont l'habitude de faire du stand-up ou tu sais, tu gères un peu ta carrière seul, travailler en groupe c'est une autre dynamique. Mais moi je suis très fan du c'est quoi, faisons deux épisodes et ensuite on voit qu'est-ce qu'on change après, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est là que tu sauras quels sont les problèmes, tu les devineras pas à l'avance. En fait.
Mais c'est là où tu vois quand même que le communisme ne marche pas. Je crois qu'au bout d'un moment ça peut pas marcher parce que t'as forcément quelqu'un qui prend un lead naturel sans faire le dictateur, mais t'as quelqu'un qui fait le lead naturel et t'as besoin, surtout quand sur une émission de groupe.
Mais au pire, ça c'est pas très grave, puisque fait l'important c'est que les décisions soient du communisme.
Alors déjà, il y a un niveau d'intelligence effectivement.
Mais c'est que ça.
Et en fait, il y a une intelligence.
Mais je pense que c'est bienveillance aussi.
Mais bienveillance qui va faire du coup de l'intelligence de groupe. C'est-à-dire qu'en gros, il faut savoir sectoriser les trucs. C'est-à-dire que toi, si tu veux te charger de ça, eh ben, tu te charges de ça et on te fait confiance. Tu vois ce que je veux dire? Si ça marche vraiment pas, on reviendra vers toi. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que si là, tu vois, c'est vrai que si ça partait sur des chroniques, ben franchement, j'en ai rien à branler en fait. C'est-à-dire, viens avec le produit fini et on te dit. Pareil, on en parle. On corrigera après, quoi.
Mais tu vois, je me disais, des mecs, par exemple, qui ont fait leur carrière entière sur la bande, tu vois, genre Ruquier, par exemple, tu sens aussi qu'il y a une bienveillance et un comment dire, il n'y a pas d'ego, j'ai l'impression.
Tu sens qu'il y a une bienveillance, toi
chez Ruquier, envers ses équipes, envers son équipe,
Okay.
Non, mais je pense sincèrement.
Je pense qu'il n'est pas méchant.
C'est possible. Et puis, j'ai l'impression.
Luna, par exemple, c'est l'enfer. C'est l'opposé. Tu vois, c'est limite mafia, quoi.
Alors que Ruquier, tu vois, le sentiment que j'ai sans le connaître, c'est des amis et qu'il n'utilise pas le talent des autres pour nourrir son propre ego.
C'est ça. Bah non, en plus,
tu vois, il les met en valeur.
Je l'ai vu un peu en dehors des émissions. C'est un pote d'Eli. Donc, quand j'étais comme Eli, c'était devenu un pote. Il était présent à des soirées. C'est quelqu'un d'hyper discret, d'hyper. Tu pourrais limite dire qu'il est un peu froid quand tu le connais pas.
Ouais.
Et sur les émissions, tu as l'impression qu'il est très bienveillant, limite, tu as l'impression que c'est une personne différente que quand tu le vois dans la vie. Et moi, ça, j'apprécie parce que tu te dis, ah bah, il défend ses équipes quand il faut les défendre, il sait les remettre à leur place quand il faut les remettre à leur place. Et il est un peu partagé quand il y a une discussion, les deux.
Bah, t'as pas l'impression que c'est un sol.
Voilà, c'est ça.
Tu sais, il n'y a pas le côté un peu roi soleil, tu vois, où genre tout le monde doit graviter autour de lui. T'as l'impression qu'il.
Bah, c'est clairement un environnement toxique, ça. Tu vois ce
de
que
quoi
je veux dire? Bah, quand t'es à la Hanouna ou alors.
Ah, bah oui, non, mais l'enfer.
Tu sens que.
J'ai mon ami qui y est depuis 3 semaines, je l'ai eu au téléphone avant.
Il souffre, il pleure.
Mais non, mais je lui ai dit, mais non, pas du tout compris sa façon. À moins que tu cherches de la notoriété, c'est le seul.
C'est ça.
Ouais, mais. Tu te rends compte la notoriété d'où elle vient? Elle vient de Hanouna, quoi. Tu es.
Ouais, mais tu peux l'utiliser à bon escient.
C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à.
L'arc combat, ça lui a réussi. Hein.
De litres d'acidité, tu es capable de boire pour avoir un petit peu de notoriété. Tu vois ce que je veux dire? Parce que.
Mais t'en as plein des comme
mais
ça.
Mais même, il y a des plateaux, il y a des scènes, il y a des théâtres où tu vas jouer et tu dis c'est cool pour moi parce que je vais être là. Mais en même temps, l'endroit où la personne qui s'en occupe, c'est pas bien. Alors. Quand t'as plus le choix, bah forcément tu restes que chez les gens bienveillants, tu vois. Mais il faut l'atteindre, le moment où t'as plus de choix en fait. Et du coup au début t'es obligé de manger des petites cuillères à café de merde.
Moi ce qui m'a surprise par exemple.
Le problème de Hanouna c'est que tu manges de la cuillère à café mais derrière ça te nique tout.
Ouais.
Camille Combal, je te réponds sur Camille Combal.
Il est bien quand même là, ça va.
Ouais, Camille Combal.
Oui.
Oui mais c'est toujours pareil, c'est où tu places ta carrière et qu'est-ce que tu veux faire. Camille Combal il fait 10 ans de radio, il est sur une grosse radio pendant 10 ans, il cartonne, il continue. Il va chez Hanouna, il réussit. Et qu'est-ce qu'il fait derrière? Il fait présentateur chez TF1. Ouais. Mais ce n'est pas du tout l'objectif de carrière que je vise.
Bien sûr, bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire?
Donc tu deviens une célébrité de télé, en fait.
Mais c'est ça. Et quand tu as un objectif d'être dans le ciné, dans le machin, Camille Combal, je suis désolé. Il est très drôle et tout, mais il ne fera jamais de cinéma, ce mec-là.
Mais est-ce qu'il veut faire du cinéma?
Déjà, on n'ira pas chercher un mec qui a été chez Hanouna.
Non, ça, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord.
C'était bien Aymeric Lompré qui est allé chez Hanouna vite fait, non? C'était pas
ouais, une émission.
Oui, mais c'est pareil. Regarde, moi, j'ai qu'un ami, Arnaud Demanche, au tout début de TPMP, il y a été. Il a pas fait hyper longtemps, mais je veux dire, ça n'a eu aucune incidence sur ta carrière. En fait, je pense
Mais il a été combien de temps?
Je sais pas, peut-être un mois ou deux.
Voilà.
Mais
demain, tu fais presque un an et demi, t'es connoté à Hanouna, tu t'es fait connaître grâce à cette émission. Derrière, mais déjà, c'est simple. J'ai un pote connu.
Mais c'est ce que tu dis sur Combal, en fait. C'est qu'à un moment, si t'as une. Comment dire? Tes compétences sont déjà reconnues pour d'autres choses. Je sais pas, donc le Demanche, il avait déjà, presque 10 ans de carrière d'auteur ultra reconnue. Il commençait à faire un spectacle. Il avait les Gérard derrière et tout.
Spectacle, c'est.
Alors le dernier là, c'est Blanc et Hétéro.
Voilà, ouais. Très très bien.
Et mais même avant ça, il avait créé les Gérard et tout. Donc il avait déjà une notoriété.
Bien sûr.
C'est vrai qu'après, moi, je sais pas. Moi, on m'avait proposé comme auteur il y a quelques années. On m'avait dit, ah, il cherchait un auteur chez Hanouna. Est-ce que ça te dirait? Ouais. Et moi, évidemment, j'ai pensé argent, bah tu oui, vois. Bah, et j'ai eu un, je sais pas, en fait, faut être sur place ou pas. Et on m'avait dit, bah ouais. Bah non, en fait. Je veux bien écrire des trucs chez moi pour Hanouna. Mais moi, avoir en collègue de bureau Gilles Verdez, à un moment, c'était l'angoisse. Je me dis, je peux pas avoir cette vie, tu vois. Par exemple, aux États-Unis et en France, c'est pas du tout le même système. Aux États-Unis, par exemple, comment on appelle ça, les talk-shows. T'as une base, c'est-à-dire que t'as les auteurs, disons, un peu permanents, t'as les auteurs seniors.
Et puis déjà, t'en as beaucoup.
Nous,
en France, t'en as un ou deux.
Mais pour rentrer. Et ils sont salariés. Et puis pour rentrer dedans, pour être salarié, par exemple, je sais pas, du truc de Jimmy Fallon, faut carburer. Hein. Et après, en fait, c'est que t'as tous les auteurs, disons, de New York, par exemple, qui envoient des trucs. Et après, t'es payé à la vanne qui est prise. C'est-à-dire que. Je sais pas, tous les matins, t'es auteur. En fait, t'es auteur américain qui est pas engagé, par exemple, par Jimmy Fallon. C'est que tous les matins, en fait, tu vas bosser pendant, 5 ou 6 heures, tu vas pondre 150 blagues que tu vas envoyer à tous les talk shows, en fait,
qui existent.
Et après, ils prennent. Et ça, c'est comme ça que tu te fais connaître. Il y a un moment, te dit, putain, lui, quand même, il en passe pas mal, c'est bien et tout.
Lui, ils le prennent.
Mais c'est pour ça que c'est un enfer. Moi, à un moment, j'avais envie de partir aux États-Unis et tout, pour plein de raisons. Et je me disais, mais en fait, ça serait impossible. De travailler, en fait, de gagner de l'argent, de gagner sa vie. C'est-à-dire que tu fais ça 12 heures par jour et tu ne sais même pas.
Fais rien d'autre.
Si,
ouais, du coup, ton métier, c'est vraiment la blague du matin jusqu'à la nuit.
Sauf que tu sais pas si tu vas avoir de l'argent à la fin.
Bien sûr, mais le truc, c'est que.
En France.
Au moins ici, au moins là-bas, tu es sûr que s'ils te prennent une vanne, ils te payent.
Oui, mais ils payent pas, ils payent pas $500 la vanne. Hein.
Mais ici, si d'un coup on décide d'envoyer des mails. À des émissions pour donner des vannes gratuites, ils vont prendre les vannes gratuites.
Bien sûr.
Et ils vont pas te rappeler.
Bien sûr.
Oui, mais une fois que t'es auteur, par exemple, ici, il y a plus un système d'essai. C'est un moment où on te met à l'essai sur une émission où tu vas être payé et tout ça. Et puis après, tu fais l'affaire, ils te gardent, tu vois. Mais moi, par exemple, à un moment, il y avait certaines émissions où j'étais payé au sketch prix ou à la vanne prise. J'ai très vite arrêté parce que c'est un enfer, en fait.
Mais après, tu vois, l'essai. Comment on sait que qu'on a envie de te donner une chance. Au moins, faut là-bas, il y a des éclaireurs. Il y a des gens, vraiment, ils sont payés d'ailleurs pour ça. Ils vont dans les comedy clubs et ils regardent. Okay, lui, peut-être il a des trucs intéressants à nous dire. Ici, en vrai, c'est toi qui as besoin d'aller à un bon endroit, le bon théâtre, puis le truc, ou peut-être il y a quelqu'un qui va te dire...
Non, c'est de la cooptation, surtout. Moi, j'ai eu de la chance, tu vois. Moi, je suis arrivée dans le truc... complètement par hasard, en vrai, tu vois, c'est...
T'étais boulangère.
J'étais boulangère. J'étais très fort pour les Saint-Honoré. Ouais. Mais non, mais c'est un truc de hasard
mangé,
total.
C'était très bon, d'ailleurs.
Ils étaient bons, t'as vu, avec la petite praline et tout.
D'ailleurs, je t'ai vu sur scène, je me suis dit, peut-être il faudrait que tu repartes dans le
podcast. Ah, espèce d'enculé. Putain, tu m'aimais avant, Aris.
T'es où, toi? T'es d'un auteur...
Alors, aujourd'hui...
Inter. Non, pas France Inter.
Non, j'ai été... Mais en fait, j'ai bossé plus pour des gens, en fait, que pour des émissions. Et là, il ne me reste que Canteloup.
Tu bosses pour Canteloup?
Ouais, je suis dans l'équipe, moi, je suis
Mais tu connais
fifre.
Alors... je me rappelle jamais.
Bah, je travaille avec Arnaud Demanche, Vassilian, Philippe Cavrivière.
Rien, c'est ça, il est du sud, il est de chez moi, lui.
Ouais. Mais c'est un hasard total. Moi, c'est juste que j'ai fait la bonne rencontre au bon moment. Et il s'avère que j'avais une chronique sur Click, sur le site, en fait, Click. Qui a été en fait une espèce de carte de visite et je suis arrivée dans le délire, mais dans le plus grand des hasards, je venais pas de là, tu vois. Et après, c'est Madénian qui m'a fait rencontrer Ribeiro, qui est le Johnny Hallyday de la blague dans ce milieu, tu vois.
Ouais,
qui a été l'auteur d'Ardisson pendant 25 ans.
D'accord. Okay.
Et qui est une machine de guerre. Et c'est lui qui m'a appris en fait à écrire une vanne et à être marrante,
mais
quoi.
C'est marrant, tu vois tous les noms qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'en fait. En France aussi, le statut de l'auteur, on le crache dessus.
Ah bah,
c'est-à-dire que
grave.
Si ce gars, t'es en train de me dire, le mec, il est là, il a écrit des vannes pendant 20 ans pour un gars super connu.
C'est un mec qui t'en...
Et
qui
on
ne
connaît pas son nom.
Ouais, bah, dans le milieu, les gens le connaissent. Tu vois, par exemple, le Ribeiro, c'est un peu... Oui, je te dis que c'est vraiment la star. Hein.
Pas plus.
C'est Ribéry, mais avec une bonne gueule.
Voilà. Et des bonnes vannes.
C'est ça, ou Cavrivière et Vassilian. Je veux dire, c'est des mecs qui sont connus, tu vois, dans le métier, tu vois.
Ouais, pas ça. Lui, il a les bonnes vannes écrites, Ribéry, il a les bonnes vannes.
Pas écrites.
Tu sais pas
mais
pourquoi.
C'est presque plus du génie chez Ribéry, en fait, finalement.
C'est du génie d'un
génie, ouais.
Tarek,
non vocabulaire, oui.
La roue tourne à tourner.
Tarek a tout appris de Ribéry.
Tarek.
Qui
en impro.
Qui Tarek. Putain.
Vous l'avez eu, du coup, à l'émission, lui?
Oui, d'ailleurs, ouais. Oui, il est très sympa.
Oh, bah, c'est un amour.
Il est marrant.
On s'est connus, nous, sur le film de Nawel.
Ouais.
Monstre de mec. Ouais, vraiment.
Ah, cool. Mais c'est vrai que vous êtes dans le film de Nawel.
Oui.
Ah, mais tu fais pas l'enculé qui lui pique des vannes?
Non, c'est pas moi.
C'est
moi,
pas toi.
Il fait un
autre enculé.
Pas, je suis le sbire de Brahms, du mec qui se bat avec Nawel dans le film.
Ah,
qui,
ouais.
Qui est un peu le méchant, on va dire. Un peu rapidement, rentre dedans, voilà. Et mais t'as le pense, responsable de la.
Je sais pas. Hein. En fait, j'ai un podcast ciné et on avait fait la critique.
T'as combien de podcasts, Tariski?
Ah ouais, ouais. T'as fait la critique du film, j'aurais bien voulu écouter. Ouais.
T'en as 32 des podcasts.
Ah, d'ailleurs, je crois que peut-être on te cite parce que je te connaissais à l'époque.
Ouais.
Et j'ai pas ultra aimé ce film, tu vois. Le film a des problèmes.
Il a des problèmes, mais il est bien. Déjà, moi, j'ai bien aimé.
Oui, mais déjà, il a eu des problèmes de base de financement. C'est-à-dire qu'il a failli pas se faire et il a commencé à le tourner. Ça a failli s'arrêter. Nawel, pour le coup, elle s'est vraiment battue pour faire. Ouais. Et du coup, ils ont eu moins de budget que prévu. Ils ont eu beaucoup de choses qu'ils ont dû enlever, qu'ils ont dû couper. Ce qui explique la fin où l'ascension va très vite.
Ah, ok.
Ah, oui, c'est ça.
C'est ça, moi qui.
On parle parce qu'en vrai,
parce que trois quarts de. Les trois premiers quarts d'heure, je les trouve vraiment pour un film français où on sait que le budget n'est pas celui des Américains et encore. Hein,
moi, je me suis toujours demandé, elle a vraiment été en prison, Nawel,
non.
Ou pas?
Ah bon, je vais peut-être faire une gaffe là.
Mais non, mais on le saurait. Enfin, sur le coup, je dis, mytho. Tu vois,
le film n'est pas marketé comme une pure autobiographie. Tu vois ce que je
en fait, elle l'a vécu pas à travers une amie. Ils sont venus. En fait, elle est venue à deux à Paris. Et ils ont rencontré quelqu'un et elle avait pas sa pièce d'identité avec elle, donc sa copine l'a donnée et c'est sa copine qui s'est retrouvée en prison à cause d'un mec, d'une arnaque.
D'accord. En fait. Ah oui, c'est donc il y a quand même.
Donc en fait, elle a quand même un lien. Ah, c'est très proche. Non mais en vrai, oui.
Non mais c'est vrai parce qu'il y a le côté genre culpabilité envers ta pote et tout ça qui serait.
Ah,
assez
tu veux dire.
Si c'était inscrit.
Non, mais parce que elles se sont fait arnaquer les deux au même niveau.
Oui, bien sûr.
C'est pas une à cause de l'autre, tu vois.
Bien sûr, oui, oui. Et mais côté genre t'es passé à une pièce d'identité.
Mais en même temps quand tu vois le film c'est son mari qui joue le mec qui l'embrouille. Moi je me serais fait arnaquer aussi très sincèrement.
Ouais, c'est un beau mec. Hein. Ouais.
Oh putain qu'est-ce qu'il est beau c'est incroyable. Je l'ai croisé une fois au Paname avec elle quoi. Et je savais pas que c'était son mari. Je savais pas que c'était son vrai mari et je venais juste de voir Les Misérables genre 3 jours avant j'ai eu un oh mais non. Putain après j'étais le mec des Misérables on m'a dit c'est le mari de Nawel.
Et puis lui qui est pas comédien de base en plus hein c'est vraiment il a fait le film de Nawel et c'est le film de Nawel qui lui.
Il est mannequin ou un truc dans le genre, non?
Il est footballeur. Et moi, je le connais, j'ai des amis.
Tellement de qualité en un seul homme.
Il jouait avec des potes d'enfance à moi, donc je sais qu'il était un foot à un certain niveau.
Ouais.
Et ouais, mais en vrai, il est.
Mais c'est terrible, tu sais, ces mecs où, tu vois, dans Les Misérables, il a quand même le rôle d'un flic qui fout un flashball dans l'œil d'un gamin. Dans le film de Nawel, il fait vraiment un enculé qui escroque les meufs. Ouais. Et tu fais, mais bon, ça passe.
C'est pas grave. C'est pas grave.
Vas-y, bas des cils un peu, c'est bon.
T'as déjà violé quelqu'un?
Ouais.
Moi, je veux bien. Hein, pas moi.
Hashtag MeToo, voilà.
Ouais. Ça tu l'enlèveras parce que j'avais pas une carrière, vraiment pas, tu vois.
Non, mais c'est fini, on t'a pas dit l'humour est terminé.
On peut plus rien dire, voilà.
C'est fini, ouais. En 2022, t'es optimiste. Hein.
Tu penses vraiment que ça va continuer?
Ah moi, je pense que ça va être de pire en pire.
En fait, je
pense que la génération woke est en train de nous niquer.
Ah non, mais vous parlez de ça, moi je parlais juste du Covid. Mais okay.
Ah non, nous on parlait de faire des blagues.
Ah oui,
des blagues de.
Ça va être pire en pire.
Moi je parle juste du Covid, moi en vrai.
Non, le Covid, je pense pas, ça va s'arrêter. Un virus comme ça ne peut pas. Je suis pas médecin.
Bah alors, dis-nous, explique-nous, professeur Raoult.
Alors, merci de m'avoir invité. Je suis virologue à la porte de Pantin. Et non, mais en vrai, je sais pas, mais si, c'est toujours pareil. Moi, j'essaye d'écouter.
Sur Facebook, il y a Véronique qui m'a dit que.
Un mec qui dit oui, vous avez vu sur Netflix, il y a un truc chinois. Non, non vraiment, non. J'écoute, je me renseigne. Pour moi, le Messi, c'est Raoult. C'est-à-dire qu'en France.
Oh putain.
Non, mais en France, on a un mec qui est
virologue. Je te respectais jusque-là.
En France, on a un mec qui est quand même. Un des dans le monde entier qui est reconnu, réputé, c'est un messie vraiment dans ce milieu et en fait on ne lui
écoute
pas. Non, mais,
alors,
mais
c'est trop bien.
Ah putain, attends, on y va, on y va.
Techniquement,
on fait un tour de table sur Raoult.
C'est vrai que Raoult c'est un professeur de virologie.
C'est pas mes propos.
Ah oui,
internationalement.
Mais bien sûr, on est d'accord.
Cependant,
voilà.
Tout ce qu'il a dit.
Néanmoins,
depuis le début, avant l'épidémie,
c'est pas faux. Ah bon?
Il a dit
oui.
Ça n'arrivera jamais en France.
ouais, je te jure, c'est vrai.
Il a dit, là pour le coup, il a dit il n'y aura jamais de deuxième vague. Il a dit ça passera En été, après, il n'y en aura plus. Donc voilà. Donc c'est en gros, tout ce qu'il a dit, il faut. Le problème, c'est que je pense, ce qui s'est passé,
moi, je l'écoute,
Raoult,
moi,
il
je
a
l'écoute,
subi une dieudonnerie, je pense. Ou à un moment. C'est-à-dire qu'à un moment, il est allé.
Antisémite.
Voilà. Déjà, il est devenu antisémite. C'est comme ça.
Alors, attendez, avant qu'on continue cette conversation, je dois vous dire un truc sur le professeur Raoult, parce que je vais pas trop rentrer dedans. Il s'avère que je connais très très bien son fils.
Putain, passe-moi son numéro.
C'est pas le moment de l'appeler.
Putain,
non, je connais très bien
oui,
son
bonjour.
Fils et que j'aime beaucoup et qui est un très très vieux pote de Marseille, qui est dans mes amis Facebook. Donc si cette émission je la partage, alors voilà, sois objectif sur ce qu'on dit sur ton papa. Voilà.
Je suis fan de ton papa. Voilà.
Voilà.
Je le défendrai jusqu'à la mort pour aller voir juste Raoult toucher des virus. Ça, je veux deux places.
Non mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement la première publication qu'il a faite sur l'hydroxychloroquine, elle était pas genre ouf.
Tu vois, t'en parles comme c'était un sketch de stand-up. Il y avait des vannes, c'était bof.
Mais en fait, le fait qu'il ait dit ça de manière publique, ça, effectivement, de manière déontologique, tu peux pas. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit.
Et ça, c'est le médecin qui parle. Tu vois, c'est le médecin qui parle.
T'es médecin, toi ?
Mais oui, il est.
Dentiste.
Mais il est dentiste.
Tu vas être mon nouveau copain.
Est-ce que tu fais des dépassements d'honoraires ou pas ?
Spécialement pour les intermittents.
Tu dois voir. T'as vu direct, non ?
Ouais, bien sûr. Ouais.
De quoi ? T'as quoi ?
Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi,
T'as des fausses dents ?
Ouais, de ça à là.
Ça se voit, elles sont trop propres.
Je t'emmerde. Peut-être parce que je les lave, tout simplement.
Oui, c'est ça, elle pourrait pas se dire juste voilà. Il prend soin de lui.
C'est une bonne hygiène dentaire, bon, bref. Mais je suis tombé des rochers à 10 ans. Peut-être la première de 4 mètres, et en fait, j'ai toutes les dents qui ont sauté.
Oh putain,
c'est putain, on peut plus se moquer de toi.
Voilà.
C'est horrible. Là,
du coup, t'es resté combien d'années
dans le coma ? 14 ans. Voilà, je suis sorti il y a 2 semaines.
Oh putain.
J'ai eu un truc bizarre pendant le confinement où je me suis réveillé pour une émission chelou. Mais après, je me suis endormi par rapport à des trucs. Et non, mais à part. Ouais, non, je suis resté sans dents. Ça m'est arrivé au mois d'août. Mais j'avais 10 ans, donc.
Je suis resté sans dents, mais c'est
oui.
Mais c'est horrible. En
à
vrai,
10 ans, à 10 ans.
Mais je sais.
Les chocs, machin, tu te dis. Ah,
moi, je connais plein de gens qui avaient plus de dents, mais à cause de l'héroïne. C'est même pas une vanne en
voilà,
plus.
Oui, voilà. Bon, alors, moi, c'est pas ça.
Non, mais dis-le.
Mais t'as commencé à dealer de l'héroïne à 10 ans, justement.
Moi, oui.
Ouais.
J'ai fait pas mal de blé. Hein.
Mais t'avais pas mal. Donc
non, c'est
dit,
exactement ça.
Pas mal de blé grâce à ça.
C'est du business.
J'ai buté pas mal de gens grâce à ça. C'est du second degré, hein, je précise maintenant.
Mais attends, alors, raconte-nous. Ok, ça, c'est fait.
Raoult.
Très bien. Ah non, moi, je voulais l'héroïne.
On n'a pas parlé de Raoult au final.
Ah oui, c'est vrai. Non, mais qu'en gros, moi, ma théorie, c'est que. Comme du coup il a reçu un retour de bâton un peu trop fort de la part des autres pour dire genre ferme ta gueule, laisse les autres gens faire aussi d'autres...
Ouais ferme ta gueule, t'as guéri Estrosi, t'es vraiment un connard, tu vois tout ça.
Je pense que le gars il s'est braqué par ego et il est parti encore plus de son côté parce qu'après il a dit des choses vraiment... Juste anti-scientifique. Genre, il a dit, il vaut mieux faire des études sur moins de personnes parce que c'est plus représentatif. Enfin,
mais quand il a dit ça, parce que moi, je regarde tout. Alors, je te jure, hein, je suis abonné à la page sur YouTube de CHI de Marseille.
Mais qui aurait cru qu'en 2020, on s'abonnerait à la chaîne YouTube d'un virologue
en vrai,
enfin,
en vrai
tu vois
c'est plus.
C'est, fou,
c'est logique,
ce truc,
mais.
Le problème de ça, c'est qu'on ne devrait même pas connaître son nom. Tu vois ce que je veux dire ? Le problème de ça, c'est qu'une étude scientifique. Elle est valable ou elle n'est pas valable, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui sort une étude, partout dans le monde, s'ils font la même étude, ils ont les mêmes résultats, alors là, on a une conclusion. C'est
j'ai l'impression d'être sous un post Facebook, là.
C'était un retour d'argumenter avec ta tante.
Oh,
non, mais en plus, c'est pas du complotisme ou des conneries comme ça, c'est juste des faits, et que tu regardes, t'écoutes ce qu'il dit, il dit simplement que... du coup, je sais plus ce que j'ai.
Mais non, mais viens, est-ce qu'on peut parler d'autre. En fait, ça m'est mal à dès que ça commence à parler professeur Raoult, je te jure, ça m'est mal à. Non, mais moi,
ce
tu sais.
Ce soir, redevenu trop ultra.
C'est ultra
sérieux,
pointu.
Ouais.
Non, mais tu
bienvenue
vois, ce qui est marrant. Non, mais ce que je trouve intéressant pour le coup, c'est qu'on se retrouve justement dans un podcast et que tout le monde, en fait, parle de Raoult par Raoult, alors que c'est un virologue, le mec. Mais moi, je suis persuadée que s'il cristallise autant. De débat, c'est pas tellement ses travaux ou la chloroquine, c'est sa personnalité.
Bien sûr, en fait, c'est très simple.
C'est que comme il a un côté un peu anti non mais anti élite, anti big pharma, anti capitalisme, anti illuminati, on va dire. Je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce mec en disant mais voilà un mec qui est pas vendu et tout, et qui il cristallise, c'est vraiment la lutte des classes. Mais pour moi il personnifie la lutte des classes. Bim.
Que si Raoult avait les cheveux courts, on lui aurait jamais donné de micro. Il serait jamais passé à BFM, je te jure.
Peut-être,
c'est-à-dire
hein.
que en fait ça fait tellement savant fou Doc Brown de Retour vers le futur. Combien de scientifiques t'as déjà vu parler longtemps et autant avoir un nom qui circule?
Alors moi qui connais son fils, ce qui est marrant, c'est que son fils est le même. C'est le même en avocat. Enfin, c'est le même en double doctorat de psychologie criminelle,
putain, tu vois,
un truc.
Déjà,
non, mais
moi,
c'est
y a un mécano.
Sauf
y a
que
un
ce qui était marrant. Non, mais tu vois, c'est ça qui était marrant, c'est que c'était un mec. Si tu pensais que ce mec a fini major de promo dans son domaine en académie ex-Marseille, c'est-à-dire que le mec, les après-midi, il allait interviewer des serial killers au Beaumettes. Hein, je veux dire, c'est un délire.
Ah,
et pareil, il a les cheveux longs, un peu gras, en tout cas à l'époque, et les t-shirts de métal et de motorhead et comme ça. Et c'était un mec qui d'un coup chantait des chansons paillardes à 3h du matin sur les terrasses.
Mais ça, c'est... Oui, mais c'est ça le problème de la France aussi, c'est que, en fait, t'as pas le droit d'être virologue ou t'as pas le droit d'être avocat. Si t'es comme ça, il faut que tu mettes ton petit costard cravate.
Non, c'est pas une question, t'as pas le droit, c'est qu'une question, c'est que je pense que. Que Raoult a un côté justement pas forcément savant fou, mais plus un côté rock'n'roll et du coup pas dans les clous, qui fait que les gens aiment bien. Je suis sûre que si le mec avait eu en effet une veste en tweed et des petites lunettes et rasé sur les côtés, il aurait moins été machin.
C'est la bêtise.
Parce que le problème, c'est qu'il
aurait été moins sujet à des passions.
Donc pour finir sur Raoult, moi je l'aime bien. Je t'aime bien, frère.
Mais cela dit, moi, je trouve que ça prouve qu'on devrait avoir plus de scientifiques
Star.
Régulièrement, ouais,
bien
régulièrement
sûr.
À la télé.
Bien
on
sûr.
A, tu vois, jamais on le voit.
Mais t'as vu les
États-Unis, commence. Tu vois genre.
Mais t'as pas vu le
et...
l'équivalent de Raoult en Allemagne?
Ah non, je veux.
Mais si, ils ont un Raoult.
Raoult.
Non, ils ont un Raoult allemand qui est le mec qui s'est occupé de l'épidémie dès le début en fait,
okay.
Et qui est juste. Tu prends Raoult, tu prends l'extrême opposé, c'est ce mec. Qui est genre très discret, qui a tout de suite dit on ne s'emballe pas.
Mais
on
qui a
ne
les
sait
mêmes,
pas.
Qui a les mêmes propos à peu près que lui.
Non, c'est juste que ça a été le monsieur épidémie allemand.
Après,
et
Allemagne,
que c'est lui qui a aussi aidé le gouvernement à prendre les mesures sanitaires et tout. Et c'était lui qui était en fait au front dans les conférences de presse pour parler Covid, quoi. Et c'était marrant parce que c'était à l'allemande, quoi. C'était pas à la Marseillaise.
Mais ça s'est quand même mieux passé là-bas que chez nous.
Oui, mais parce que.
Oui, mais c'est pas pour les mêmes raisons.
De manière gouvernementale, ils ont déjà directement intégré. Un scientifique qui allait être le porte-parole et qui allait aussi, ils ont fait des trucs géniaux. Là, en Allemagne, genre, ils ont.
Et puis, c'est pas du tout la même.
PlayStation 6,
déjà. C'est chaud, non, avec la 5.
Non, et puis, c'est pas la même.
Oh là là. Les Chinois, les Allemands, oh là là.
On joue à Call of Duty, mais tout le temps du côté des Allemands.
Oh là là. Je m'en vais.
Genre, dès le début, les gars, ils ont commencé à subventionner des labos privés pour bosser que sur ça. Tous les labos.
Oui, puis le système est pas le même.
Pour trouver plein de trucs différents. Etc.
Le système de santé est pas le même. Et en plus, il y a un truc. Alors, pour être allé très souvent en Allemagne, c'est que les distances, c'est beaucoup moins. On est beaucoup moins les uns sur les autres.
Oui, et puis beaucoup moins tactile que la.
Beaucoup moins tactile. Et c'est que surtout, par exemple, tu vois Berlin. Berlin, c'est 8 fois plus grand que Paris, en fait. Et il y a le même nombre de population. Donc, déjà, les gens sont pas entassés tout le temps.
Il y a eu l'URSS qui est passé par là.
De quoi tu parles?
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aurait pas eu 39-45. Après, ça aurait été une ville.
Non, mais c'est pas de ça.
La guerre a fait du bien.
Mais
c'est ça que t'es en train de dire.
Mais quel est le rapport?
Ça a fait du bien pour bien étaler Berlin.
C'est ça. Non, mais je te dis juste qu'à un moment, il y a eu moins de contamination aussi parce que comment le pays est foutu et les villes sont foutues, t'as plus d'espace.
Italie, Chine, des pays.
Oui, tout le monde est les uns et sur les autres.
Surtout que l'Allemagne, personne n'en vit là-bas. C'est genre tout ça.
Ah, c'est trop bien.
Ah bon, il n'y a pas la mer Méditerranée.
Non,
mais en fait, c'est que tout le monde vit avec ses grands-parents, tu vois, Italie, en Chine, tout autour de la Méditerranée. Du coup, la contamination, ça se fait sur 3 générations.
C'est que surtout, on se roule tous des pelles tout le temps en France aussi.
D'où les études qui sont sorties sur le confinement, on dirait que c'était une très belle connerie d'avoir confiné les gens parce que ça s'est transmis plus facilement dans les foyers, justement.
Ah oui, mais dans les foyers, mais ça évite les cross-contaminations parce que, quand même, ça a bien chuté. Hein. C'est pareil, en Chine, ils ont été ultra stricts. C'était en mode.
Ouais, c'est un truc de ouf.
Tu restais, certes, en famille, mais t'avais qu'une seule personne qui pouvait sortir pour faire les courses.
Mais sauf que nous, on n'était pas stricts comme ça.
Et en plus, tu pouvais pas faire les courses. Je crois qu'ils te livraient, t'avais des trucs de commande dans les immeubles et machin.
Apparemment, ils ont soudé des portes pour pas que les gens sortent. Enfin,
avec des Ouïghours.
Oh, ça fait 8 ans que je suis là, moi. Oh
Les Ouïghours, c'est ça, à la base. Hein. C'est juste
ça, ils les ont confinés.
Ils ont oublié. Oh, c'est ça. Ah, mais ça fait combien de temps que t'es là? Je sais pas. Moi, ça va, j'avais des réserves, donc ouais, ça va.
Il a créé son propre écosystème.
Ouais. Ah, moi, je suis survivaliste, donc de toute façon, tu peux me laisser enfermer. Hein. Moi, j'ai une PlayStation 5 et des conserves, je suis content. Hein.
Ouais, franchement, moi.
Mais tu sais que l'achat de PlayStation au début du confinement a explosé.
Ah, oui, c'est sûr. Bah, moi, le premier, j'ai acheté.
Bah, ouais, moi, mon mec avait acheté une PlayStation aussi.
L'avantage, c'est qu'on pouvait acheter directement les jeux sur le cloud, sur le network.
Non, mais même, ouais.
Et du coup, bah ouais, c'était
mon mec a acheté une PlayStation du moment où ils ont dit bon, on va confiner à partir de mardi. Il a commandé une PlayStation sur Amazon.
Ah ouais. Moi, je l'avais depuis longtemps, ouais, donc je suis préparé. France,
on s'est dit bon, tout le monde réinstalle Counter Strike.
Ah ouais.
Counter Strike.
J'étais avec mes potes. Ah ouais. On se connaît depuis la 6e. Ah ouais. On était comme des gosses comme ça à faire. Il plante en B. Vas-y.
Counter Strike. Mais le dernier, le truc d'avant. Ah oui.
Ah putain, la régression. Mais c'est vrai qu'on a tous perdu 10.
Counter Strike.
On a tous perdu 10 piges en fait.
Nous, on parlait de qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie. En fait, mine de rien,
le Covid
a permis de se dire bon, qu'est-ce que je me mets dans ma journée en fait qui me fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire?
Ah ouais, mais non, mais moi le confinement c'était tellement pas révélateur de rien quoi.
Moi ça a été un enfer. Total.
Moi ça a été un enfer.
Total. J'ai détesté ce moment. J'ai eu une période les deux premières semaines où j'étais à Paris avant de partir dans le sud. J'étais complètement paumé, c'est-à-dire je savais
t'étais
plus.
T'étais tout seul ici, non?
Non, j'étais avec. Ouais, on était confinés ensemble, mais enfin moi je suis un peu claustro, un peu hypochondriaque, donc en fait tout était réuni.
Elle a dû souffrir ta meuf.
Heureusement qu'elle était là, mais tout était fait pour que je passe un mauvais moment. Ouais. C'est-à-dire que et du coup je me suis barré dans le sud pour ça. J'ai pas été dans la famille, je rassure les gens, j'ai pas fait de con, mais j'avais déjà prévu moi. En fait, je suis tellement hypochondriaque que j'avais déjà des masques depuis janvier. Quand j'ai vu que ça arrivait en Chine, j'ai un pote qui m'appelle, il me fait achète des masques. Ah. Et je dis ah bon, pourquoi? Bah parce que si c'est en Chine depuis novembre, c'est en France depuis novembre aussi, vu que c'est quand même une des destinations principales, c'est Paris. Donc et la preuve, c'est qu'on voilà. Et ça m'a permis de pas prendre de risques, d'avoir des masques, de louer une voiture, d'aller dans le sud et d'avoir un appart où il y avait personne. J'ai loué un.
Mais genre toi, t'as vraiment fait genre des trucs qui te font du bien, qui sont bien pour ta santé spirituelle et physique pendant le confinement?
Non mais moi j'ai du coup j'ai
le Nutella, ça compte?
Non, Agenda, ça compte ou pas?
Yoga.
T'as fait du yoga?
Ouais.
Mais pourquoi t'as pas continué?
Si, on se faisait des trucs. Mais exactement. Maths. Pourquoi est-ce que j'ai pas continué? Pourquoi est-ce que je continue pas à jouer avec mes potes et que d'ailleurs eux non plus ne continuent pas? C'est comme si.
Parce que le travail a repris aussi.
Mais voilà, mais c'est ça le problème, c'est qu'on est rentré dans un sillon de travail et d'habitude où tu te dis ah, mais tiens, je fais plus quand même les 2-3 trucs qui me faisaient quand même du bien, tu vois.
On a mis en place, on faisait un FIFA les mardis et les vendredis soirs, on se disait, on se réunit tous, on faisait chacun un joueur, on faisait des divisions comme ça. Et en fait, on a tellement kiffé qu'on a continué. Alors après, il y a l'été qui s'est mis en place, on était tous à côté. Voilà. On n'était pas divisés, donc on était tous à côté, on se voyait, on jouait plus. Mais là, dès que le 21 sort, on s'est dit, on va se bloquer 2 jours ou une journée par semaine.
Ah, vas-y, je veux en être moi.
Parce que j'ai découvert qu'elle jouait à FIFA aussi.
Tu joues à FIFA?
Ouais.
Bah là, le problème, c'est comme on dit, on est 7. Non, mais c'est pas ça.
Ah ouais, d'accord. Okay,
c'est pas ça. C'est qu'il
fait le goal.
Voilà, c'est ça. C'est qu'il reste, que des postes de merde. Il reste la défense, quoi. Et encore, en défense, il reste.
Je suis ultra fort en défense.
Il reste 2 postes. Ah ouais? Il reste 2 postes en défense.
Non, mais c'est pas grave, on fera une équipe parallèle.
Non, mais si vous voulez, je vous mets. Par contre, il nous reste une place de.
Ailier droit.
Ouais, il nous reste. En vrai, il nous reste un défenseur central.
Attends, tu joues avec le PSG? C'est genre le PSG?
On a créé notre équipe. Tu sais, tu crées une équipe.
Ouais.
Et on s'appelle Parmonseil. Paris, Monaco, Marseille.
Ah, ok.
Et on va tout de suite essayer de mettre le Fréjus FC ou Saraf FC ou Roquebrune FC parce qu'on est tous du sud.
Ouais. Donc Raoult FC.
Raoult FC, voilà.
Chloroquine FC.
Clo-Clo FC. Non, on va voir, mais voilà, c'est sympa à faire, quoi.
Mais ouais, mais moi, tu vois, c'était le contraire pendant le confinement. C'est-à-dire que tous les trucs que je fais dans ma vie normale pour me faire du bien et qui sont assez compliqués comme ça, pendant le confinement, tout a pété, quoi.
Est-ce que vous êtes des gens d'extérieur, peut-être, non? Vous aimez bien aller voir?
Non, c'est que moi, tu vois, déjà, je travaille de chez moi. Déjà, à la base, à l'année, je suis en télétravail. C'est pas ça, mais c'est que j'aime bien aller. Par exemple, je bosse au café en bas de chez moi.
Ah oui.
Déjà, je bosse au café en bas de chez moi.
Ce qui fait plaisir, c'est à l'extérieur, mais ton travail, c'est chez toi. C'est ça que tu
veux dire? Non, parce que je travaille au café. Parce que chez moi, c'est chez moi. Chez moi, c'est, voilà, c'est mon espace de vie et tout. Et d'un coup, d'avoir mon lieu de vie et mon lieu de travail qui étaient complètement mélangés et de ne pas pouvoir en fait prendre l'air, genre d'aller au sport, parce que j'ai continué à bosser moi pendant le confinement, tu vois, et de ne pas pouvoir aller au sport, voir les copains, aller au ciné et tout, il y a un moment où j'avais l'impression en fait de vivre au bureau, de dormir dans mon bureau, et ça a été mais un enfer.
Et vous bossez à côté du coup en même temps que le stand-up?
Non, enfin moi c'est mon taf d'auteur.
Ah oui, toi tu montes pas sur scène toi?
Si aussi, si, ouais. Mais j'ai pas de vrai métier comme lui. Ouais, moi, j'ai pas un métier lucratif, quoi.
Toi, c'est vraiment, t'as fait le stand-up par passion et ça t'empêche pas de vouloir continuer à être dentiste. Ou tu te dis si un jour j'arrive.
Ah si oui, c'est dès que je. En fait, le truc c'est que
dès que tu peux arrêter d'être dentiste, tu feras.
Oui,
ah oui, d'accord.
Le problème, c'est que.
Oui, mais tant que tu seras dentiste, tu pourras pas en vivre. C'est un peu, c'est vicieux.
De quoi?
Rien qu'en bossant 2 jours par semaine en tant que dentiste.
Ah, tu bosses que 2 jours par semaine en dentiste?
3 jours, tu vois.
Pas mal.
Et mais c'est. Ça te, t'as quand même, tu gagnes assez d'argent pour te dire, ah, le moment où je gagne cet argent en stand-up, c'est peut-être dans mon temps. C'est-à-dire que...
Ah oui, tu gardes ça, mais ça veut dire, déjà, c'est t'as la chance de pouvoir bosser que 3 jours par semaine.
Parce que c'est pas un cercle vicieux, c'est pas, tant que tu feras tes 3 jours de dentiste.
Faut que j'aille aux toilettes.
Mais moi aussi, faut que j'y aille après. Ah ben, mais... mais tu vois, est-ce que tant que tu feras tes 3 jours de dentiste,
comme si j'étais encore là.
Tu vas pas te... du coup, ça t'empêche de te développer...
c'est à gauche, pardon.
Autre chose. Autre chose.
Yes. Yes.
Tu vois. Moi, j'ai tellement envie de fumer, c'est horrible. On peut pas fumer...
Je sais pas, parce que... Je me...
peux pas faire Michel Pollack un peu comme ça.
J'aimerais bien... Ce serait bien d'avoir un côté Bernard Pivot.
Ouais.
70, tu sais.
Grave, tu vois.
Tout le monde qui est comme ça, ouais, mais je pense que... Mais il faut, que... faut arrêter, hein, de toute façon.
Non.
Si c'est les losers qui fument, c'est...
Je t'emmerde. Laisse-moi ça.
Tu vois ce que tu veux dire? Et
tu
oui,
vois
je
ce que
me...
je veux dire?
Je me dis... Si
c'est un moment, c'est un choix,
ça...
faut se lancer.
Si j'avais pas ça, effectivement, ça me libérerait aussi pas mal de temps mental... pour faire plein de choses. Ou ne
bon, après, l'époque n'est pas la meilleure pour recommencer à faire ça.
Là, c'est ça. Ça me va très bien. Je me dis par rapport, heureusement...
Parce que moi, c'est l'inverse. Tu vois, je suis en train de me dire, en fait, il faut que je me trouve un vrai travail. C'est la première fois depuis 6 ans que je
Pourquoi
me dis... Bah, parce que déjà, financièrement, c'est la merde, parce qu'il y a de moins en moins d'émissions, qu'il y a de moins en moins de travail, que, tu vois, et qu'à un moment...
Qu'est-ce que tu saurais... Qu'est-ce que tu
mais moi, je sais faire plein de trucs, moi.
Quoi?
Dans le milieu, je sais faire plein de trucs. J'ai fait, c'est quoi, j'ai fait tous les métiers. J'ai fait de la régie lyrique à l'opéra.
Vu, je t'avais vu stripteaseuse, moi.
C'est vrai.
C'est à la flaque, non?
C'est ça. C'est ça. Au Pink Flamingo. Non, mais j'ai fait de la com dans les théâtres. J'étais assistante metteur en scène. Oui. J'ai fait de la diffusion. J'ai même été directrice de casting. Enfin, assistante directrice de casting. J'ai fait tous les métiers qui existent.
57 ans, hein.
C'est ça.
Mais moi, déjà...
Donc, je pourrais faire plein de trucs. J'ai même été aux relations publiques dans la mode pour une marque de fringues. Mais... Donc, tu vois, je pourrais faire plein de trucs.
Oui, mais c'est vrai que c'est des... Oui, tout... c'est faux métiers, quoi. des trucs qu'on t'as... apprend
mais
en
la
un
violence. La violence.
Non, mais cela dit, mais je suis d'accord.
Désolée de ne pas avoir Bac plus 5, monsieur. Docteur.
Mais, tu sais, ça a trop changé. Ça change trop ma perception d'un métier, en fait, moi. Ça. Parce que je me dis, ah, bah, si tu n'as pas fait les études pour ce métier, tu ne peux pas le faire. Alors qu'en vrai...
Mais pas du tout.
En vrai, tu arrives, tu apprends n'importe quel métier.
Moi, j'ai fait zéro étude, mon gars.
Et tu fais ce que tu as à faire.
T'as pas fait d'études du tout?
Bah, j'ai mon bac, quoi. Après, si, j'ai fait une école de théâtre, mais...
Ah ouais, donc c'est vraiment moi qui ai vraiment pas d'études, quoi. C'est...
Toi, t'as pas ton bac? T'as pas ton brevet?
J'ai pas le brevet. J'ai arrêté en 4e.
Oh, c'est ouf.
Non,
putain,
mais t'es hyper
arrêté.
Intelligent, en plus.
C'est vrai.
Mais
quel boulain, non,
en vrai, moi,
mais c'est quand je dis que je suis autodidacte, et c'est pas vrai. Mmh. Je peux pas dire que je suis autodidacte parce qu'un autodidacte est beaucoup plus assidu que moi, mais j'ai toujours voulu, moi, déjà, ce que j'aimais.
Curieux,
voilà, c'est ça. Oui, je pense que le mot est vraiment curieux, c'est que ça m'a, à un moment donné.
Et débrouillard.
Ouais, je sais pas, mais ça m'intéresse et je vais aller dedans. J'ai beaucoup, j'ai de la chance,
aussi.
Honnêtement, j'ai vraiment de la chance d'avoir des copains très cultivés. Ouais. Je pense à Emeric, à Antoine. À Osni, c'est mes potes, ils sont très cultivés dans plein de choses, ils ont fait aussi des études ou pas d'ailleurs, et c'est souvent les gens qui n'ont pas fait énormément d'études ou ils ont fait des études dans un métier qui leur est spécifique, c'est pas forcément c'est pas parce que t'as fait plein d'études,
oui, bien sûr.
Si t'es études juste dans le commerce, tu vas pas connaître la science, mais c'est des gens qui se renseignent, lisent beaucoup et machin, et on fait beaucoup de comme on fait là. Et on passe des soirées, des journées à parler des fois.
C'est important d'avoir un entourage.
Mais bien sûr,
en fait, aussi,
bien sûr, tout
est comme ça.
Tout est important.
Parce que tu vois, le nombre de choses que j'ai apprises par juste, oui, comme tu dis, oui, par des potes, juste en discutant. Et du coup, ça m'intéresse, donc je vais aller rechercher les infos après.
Puis j'adore ça, moi, de parler comme ça, d'avoir des avec mon pote. Des fois, ça nous est arrivé vraiment, sans mentir, avec Antoine, on s'est fait des journées, j'arrive à 14h chez lui, je repars, il est 6h du matin, et on a juste discuté en fait. Et on n'a pas bougé, on a juste parlé, rigolé, et on est passé du cinéma à la science, à la politique, on revient sur les séries ou sur le cinéma, nous on est très fans de BD, séries, comics, tout ça, donc Mon pote, en plus, est un dessinateur incroyable. Ils sont tous un peu... Enfin, il est vraiment dedans. C'est une bible. Alors, pour le coup, lui, c'est une encyclopédie à lui tout seul.
Ah, génial.
Il peut te parler de tout, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire, il connaît, il a lu, il a entendu, il a étudié. C'est génial de parler... Même si, des fois, ça va trop loin et moi, je suis plus...
Tu vas me donner son 06.
Ah ouais, alors, avec lui, tu fais un podcast comme ça, mais t'en as pour 8 heures. Hein. Ah ouais, tu vas te faire chier au montage.
Non, mais moi, j'adore effectivement ça et je trouve que c'est un truc qui est pas assez, célébré, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Dans la vie de tous les jours, les gens qui disent... Oulala, ça va encore au café, discuter entre amis, genre en mode un peu condescendant, et à la place quoi, je devrais faire quoi,
Puis en plus, il y a un truc ludique dans ce truc-là, parce que t'apprends, on apprend tous des choses, on partage tous des choses, et en même temps, on passe un bon moment, en fait. Donc, on retient plus facilement que si on est avec des gens qu'on n'a pas forcément envie, et où on regarde un truc qu'on n'a pas forcément envie de regarder, juste pour se dire, faut que je sois au courant. Ce qu'ils nous vendent à la télé aujourd'hui, je suis désolé, mais ça ne fait plus rêver.
Pour moi, les podcasts, c'est-à-dire que, en tout cas, aux États-Unis, il y a eu un gros changement, tu vois, un changement de paradigme.
Putain, j'arrive au moment des mots sérieux. T'as fait des études, toi, non ?
En gros, moi, j'ai appris aussi énormément de choses juste en écoutant des podcasts de gens qui discutaient.
Ouais, bien sûr.
Juste, c'est quelqu'un qui reçoit justement un virologue ou ce que tu veux, etc. Et juste, il discute. Et comme l'autre personne n'y connaît pas grand chose, elle pose des questions. Mais en fait, que toi, tu poserais. Et dans une discussion, tu as l'impression d'être le troisième et tu apprends des choses. Alors que, tu vois, le côté court, très TEDx, et encore, même un TEDx, c'est plutôt genre déjà un peu plus son et lumière qu'un cours classique, tu vois, qu'on peut avoir. Tu retiens rien, tu retiens genre.
Bah moi, ça a été tout mon problème de. Enfin, c'est pour ça que j'ai jamais fait d'études. À un moment, j'avais commencé à faire un BTS en production audiovisuelle.
Ouais.
Ça m'a juste permis à faire des stages rigolos sur des tournages, tu vois. Mais moi, le côté genre où tu restes le cul posé pendant 8 heures en train d'écouter un cum, j'ai jamais pu. J'ai un temps de concentration qui est d'un bulot, quoi. Pareil. Tu vois,
moi,
c'est. Ça
a
été un calvaire. Je m'en suis sortie dur, parce que j'étais pas trop con et que j'étais une bonne escroc, tu vois. Mais. Non, mais
c'était au bac, hein. Moi j'ai fait.
J'ai au bac, mais j'ai pas eu le choix en fait. C'est que mon père m'a fait en fait, meuf, ça va pas le faire quoi.
Mais en fait, j'ai fait quatrième, j'ai arrêté la quatrième et j'ai pas arrêté l'école là à ce moment-là. J'ai redoublé ma quatrième et à la fin de la quatrième, j'avais plutôt bien réussi la deuxième année, forcément. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je voulais être prof de sport. On m'a dit, prof de sport, il faut avoir 18 sur 20 ou 16 de moyenne à peu près. Donc on m'a dit, ça c'est mort. On m'a fait noter trois métiers envisageable à faire,
les saltimbanque, troubadour,
j'ai mis restaurateur et j'ai mis autre chose. Enfin, le seul truc que je regrette, non mais le vrai truc que je regrette, que je me rattrape maintenant depuis quelques années, c'est le français. Je regrette de pas avoir été plus assidu en français. D'accord. Au vocabulaire maintenant ça se traduit.
Mais ça c'est un truc que tu peux apprendre sur le tas. Oui, pour voilà, moi du moment où tu lis des bouquins, que tu t'intéresses, voilà, en fait
c'est ça, c'est l'examen, le fait qu'on, le travail qu'on fait d'écrire, de lire, de tous les jours je lis forcément au moins une heure dans la journée, je lis quelque chose, donc forcément il y a ça vient, et puis au fil des années ça c'est comblé ce manque. Mais les fautes d'orthographe au début, moi c'était un calvaire. Je faisais tout le temps des fautes d'orthographe et ça m'énervait parce qu'on me reprenait. Mais après j'ai ce truc là aussi. Ça m'énerve qu'on me reprenne, donc je vais faire en sorte de plus faire de fautes d'orthographe. J'en fais peut-être encore un petit peu, mais c'est vrai que j'en fais et je peux aujourd'hui sans problème envoyer quelque chose à quelqu'un en me disant bon, ça va, j'ai pas fait de faute. Avant, il fallait que j'envoie à ma mère ou ma copine, genre corrige-moi, dis-moi si c'est bon, regarde, voilà, machin.
Mais c'est ça qui est cool dans notre métier, enfin, en tout cas dans ce métier-là, que ce soit d'ailleurs chez les auteurs ou chez les comédiens, c'est que finalement, t'as pas besoin de faire des vraies études, comme t'avais l'air de dire, tu vois.
Tu peux pas être virologue,
tu fais des vraies études avec un peu de condescendance, parce que moi, je me vois aussi un petit peu en vous, mais dans le sens où, moi, je sais pas que j'ai pas appris des choses, j'ai appris à bien réussir aux examens. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, bah c'est le problème.
C'était
des études.
Juste pour passer les examens, parce que moi j'avais une pression familiale et personnelle qui faisait que c'était ça. Enfin, il fallait que
fallait que tu sois dentiste.
Dentiste. Non. Il fallait que je fasse des études.
T'es juif ?
Supérieures. Non, je suis immigré. Donc si tu veux, c'est un peu le genre. Ben, c'est ça en fait. En vrai. Tu vois, les immigrés, entre guillemets, intellectuels, académiques, c'est, il faut réussir.
Après, ils faisaient quoi, tes parents, toi ?
Bah, mon père, il est médecin.
Oui, donc, ouais, d'accord.
T'es juif, quoi.
Ouais.
C'est ça.
Et en fait, si tu veux, il y a le côté, mais moi, hein, vraiment, si on m'avait dit, mais qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui ou qu'est-ce que tu voudrais, je me casse d'ici, les gars. J'ai appris plus en un c'est pas sorcier que tout ce que je vais apprendre ici en un an. C'est vrai.
Ouais, ouais.
En fait. Et du coup, je voyais un peu le côté genre, ah, on est juste là pour faire semblant, pour cocher des trucs, en fait.
Mais j'ai quand même un CAP, un BEP. Hein. CAP, j'ai CAP cuisine et CAP vente et BEP vente. J'ai arrêté.
Oh bah quand même, t'as des diplômes, t'as déjà plus de diplômes que moi, mon gars.
Oui, mais c'est, enfin, aujourd'hui, ces diplômes-là, voilà. Et après, j'ai commencé une année en bac pro pour faire vendeur. Enfin, j'étais vendeur, c'était l'apprentissage.
Ouais.
Mais j'avais commencé bac pro et on m'a proposé un boulot dans le théâtre. Et à partir de là, j'ai dit.
Attends, mais qu'est-ce qui t'a fait? Genre, t'avais un boulot dans le théâtre, tu faisais quoi?
J'étais dans le sud, c'était une école de théâtre, une école d'art, parce qu'il y avait du dessin, de la danse, du musique.
Fame.
Enfin, ouais, c'était vraiment. Mais non, mais c'est pas du tout américain, c'était vraiment. Les fins.
Sous-sol.
En plus, tu rigoles, mais c'était en sous-sol. C'était Agora, ça s'appelle toujours, je crois. Et c'est à Saraf, et tu avais des classes voilà, de dessin, de danse, des cours de danse, de théâtre, de musique, de guitare, de tout.
On refait la guitare.
Mais ouais, je mime tout, moi je suis mime à la base. Et du coup, moi, ils m'ont proposé de venir bosser pour faire le ménage le matin. Je m'occupais du ménage, ranger les costumes, la costumerie, tout ça. Et l'après-midi, fin de journée, je donnais des cours aux petits les mercredis et vendredis de théâtre aux petits.
Mais t'avais jamais fait de théâtre et tu donnais des cours?
Ça faisait 2 ans que j'en faisais.
Ah, ouais,
et ma prof m'initiait à donner des cours. C'est-à-dire que je faisais les cours avec elle d'adulte. Moi, j'étais depuis 2 ans. Donc, ils savaient que j'étais fait. Enfin, je faisais tout pour faire ça. C'est-à-dire, le jour où ils m'ont proposé ça, je crois que la lumière s'est mise au-dessus de moi.
Ouais, oh, merci.
Génial. J'ai dit enfin un truc où je sais que je vais me lever et que je vais être content de le faire. Pardon, excuse-moi, on m'entend pas bien. Pardon.
Et continuez de vous excuser. Oui, comme ça. Non, c'est moi, non.
Voilà.
C'est moi, c'est
et
moi.
Du coup, à partir de là, je faisais les inscriptions pour l'école. J'étais le secrétaire, on va dire, de l'école. Plus, j'apprenais le métier de donner.
T'étais l'homme
cours
à tout faire, quoi.
Un peu. Et en fait, on a monté des pièces. Une pièce, c'était la Menthe et Citron, qu'on a repris de ce qui se jouait à Paris.
Pourquoi tu le regardes quand tu dis ça?
Bah, je sais pas. C'est
parce qu'il est arabe, c'est ça.
Et non, voilà.
Ça
ah, t'es à la mode par rapport à ça. Ah, j'ai même pas fait le lien en plus.
Non,
mais il me semblait, mais moi aussi, il me semblait qu'on en avait parlé, mais je sais plus. Il me semblait qu'on avait parlé. Non, mais en plus, il me semblait qu'on avait parlé de thé à la menthe, le citron.
En septembre, ouais, ça.
Exactement. Et Charlie Hebdo, je crois. Et du coup, non, mais vraiment, et on a monté une pièce repris une pièce qui a cartonné dans le sud, on a fait Avignon, machin, nan, nan. Et de là, j'ai commencé à être intermittent et j'ai continué là-dedans.
Mais du coup, moi, ce qui m'interroge vachement, parce que tu vois, moi par exemple, j'ai grandi dans le milieu du théâtre parce que mon père est administrateur de théâtre, tu vois, donc j'ai passé ma vie dans les théâtres. Mais comment, quand tu es dentiste, tu te retrouves à un moment à te dire, tiens, j'ai envie de faire du stand-up et j'ai envie de faire des parce podcasts et des
moi,
trucs.
Moi, tu vois, on revient au truc de qu'est-ce que j'ai pas appris à l'école. L'anglais, je l'ai appris en regardant Seinfeld en quatrième, troisième sur CanalSat, que je piratais.
Bravo.
Et j'étais fan du stand-up avant que quiconque parle de stand-up en France. Et j'étais un peu tout seul. J'étais en mode
un
genre,
précurseur.
T'as vu ça?
Seinfeld, quoi. Tu vois,
je regardais, mais j'avais pas de notion du mec.
Moi, j'adorais les petits morceaux où tu sais, tu le voyais sur scène dans la série. Tu vois. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à télécharger lui sur scène, à voir les autres trucs. J'ai commencé à télécharger des trucs comme The Kings of Comedy. C'était
des noirs.
Tu sais, il y avait Steve Harvey, Cédric The Entertainer. Et du coup, mais j'étais.
Ça bizarrement hein. Des noirs c'est bizarre. Non, c'est bizarre, non, c'est bizarre.
C'était réalisé par Spike Lee en plus la soirée je regardais ça et je m'éloignais un peu petit à petit de ce qu'il y avait
de la dentisterie.
Il y a des intonations différentes. Je m'éloignais un peu noirs. Il avait vraiment une il a un opéra dans sa gorge. C'est bizarre. Hein.
C'est ce que je prends ma voix basse dès que je veux parler de l'Afrique.
Non, non, tu prends plusieurs voix. Il y a plusieurs personnes dans tes cordes vocales.
Non, et donc. Non, mais cela dit, j'étais toujours plus intéressé par le stand-up que, je sais pas, le théâtre ou même les one-man shows français, en fait. Voilà. Et. Je sais pas, il y a des gens qui m'ont dit, tu sais, jusqu'à très peu avant que je fasse ma première scène, des gens qui m'ont dit, ah, tu devrais faire du stand-up, des choses comme ça. Et bien sûr, je disais, bah, jamais de la vie, en fait, je vois pas pourquoi je m'infligerais ça. Et un jour, je me suis dit,
fuck
quoi,
it.
Vas-y, ouais, vas-y.
Si les noirs peuvent le faire, je peux le faire aussi.
Voilà, c'est ça que tu t'es dit. Quand tu t'infligeais ça à l'époque, tu pensais vraiment que c'était une souffrance?
En fait, oui, je vois pas pourquoi j'irais parler en public alors que je peux très bien être drôle.
Parler à mes clients en réparant une carie, je vois pas le, pas le problème. Hein.
Non, et tu le dis à tes patients que t'es stand-upper aussi ?
Mais par contre, tu connais pas mal de patients, enfin pas mal.
Tu connais Olivier Gage ?
Oui. Enfin, je connais, je le connais pas personnellement, mais forcément, on me parle de lui parce que c'est l'autre dentiste.
Ah, parce que alors, c'est un truc de ouf, parce que je me retrouve avec je ne sais pas qui où je parle de toi et on me dit ah mais putain attends mais il y a un dentiste qui fait de l'humour dans le 16e aussi. J'ai dit mais attends mais c'est Areski, c'est pas possible. Elle m'a dit non ça me dit rien, c'est pas Sugar et tout. J'étais là attends il y a un deuxième dentiste stand-upper, c'est pas possible.
C'est le premier,
c'est pas un stand-upper en plus, c'est un one man.
Ouais mais c'est qui, comment il s'appelle?
Olivier Gage.
Lui par contre,
lui il est juif.
Lui il est pas.
Non, pas du tout.
Lui par contre, il a fait genre des 50 minutes inside et tout, où tu voyais qu'il
tellement
donnait des flyers.
Ah, à son cabinet.
Alors que moi, c'est quelques patients qui m'ont dit mais attendez, mais je vous connais, ou même je vous ai déjà vu sur scène, ou un truc comme ça.
Est-ce que t'es pas hyper gêné?
Ouais, parce que j'aime pas trop
mélanger.
Arrête. Vous m'avez vu? Pardon. Ah mais ça me gêne.
C'est vrai que je te dise, vous m'avez vu où? Ah celle-là.
Vous avez aimé ou pas?
Bah, ils. Mais tu t'es jamais dit tiens je vais faire un set sur ma vie de dentiste? Tu sais les mecs ils sont pions dans les écoles, ils font toujours.
Je me suis dit au début non, joue ta carte de dentiste le jour où t'auras besoin d'un petit buzz, tu vois ce que je veux dire? Mais en attendant écris juste des vannes parce que
ça, je
pense à tout, tu vois.
Ouais, je suis d'accord. Faut pas forcément.
Non
à mon avis,
mais
c'est une erreur.
Je suis d'accord avec toi, mais je pose. En fait, je me mets dans la peau d'intervieweuse.
En ce moment, je.
Non, parce qu'il dit jamais rien, il pose toujours des questions aux gens et lui, il lâche rien. Tu vois, là, on apprend plein de trucs.
Tes influences, alors, c'est. Bah, Seinfeld. Allez, oh là là, moi, je m'en vais. Non, pas de problème, pas de problème.
Alors là.
Non, mais Élie, honnêtement, Élie et Dieudo au début, c'était forcément des références. Au début, évidemment, après. Mais... Après, on rentrera pas dans la politique, mais non, mais on peut pas. Aujourd'hui, c'est ça que je reproche beaucoup, c'est qu'on peut pas.
On peut plus rien dire.
On peut plus différencier.
Peut plus
on peut plus différencier. Ça se dit différencier.
Ouais.
On peut plus différencier.
L'homme de l'artiste. Il faut séparer l'homme de l'artiste.
La polémique,
c'est ça qui.
La polémique et l'artistique.
Et le comique. Ouais.
L'artistique.
En fait, où est passé le fun? Juste dire, c'est pas grave, moi je suis là pour vous faire rire. Donc j'ai le droit de dire de la merde. Tu vois ce que j'ai le droit de dire un truc politique un peu moisi.
Bon, après, on parle pas de Dieudo là, on parle de la globalité.
Non,
parce que Dieudo, ça a dérapé complètement.
Le problème, c'est qu'il a créé une jurisprudence. Le truc, c'est qu'il a créé une jurisprudence un peu, tu sais, Dieudo.
C'est
toujours pareil.
Les gens qui vont le défendre, je.
Mais non, mais tu vois, c'est que dès qu'il y a un humoriste qui va un peu faire un bad buzz, il y a tout le monde qui dit ah oui, bah alors lui, on l'interdit pas, alors que Dieudo. Et t'as envie de dire, ce n'est pas pareil.
Mais c'est surtout, c'est ça le problème, c'est que les gens ne vont pas au fond des choses.
Bah non.
Donc ils prennent.
Les gens sont con, tu sais.
Comme ça, et après ils disent ouais, mais c'est normal parce que si. Et combien de fois ça m'est arrivé de discuter avec des gens et tu dis, mais en fait, t'as juste entendu trois phrases ou quatre trucs et tu me fais un discours.
Non, mais c'est que ça a pourri le cerveau. Moi, j'avais une meuf.
Tu peux pas discuter au final.
Moi, j'avais une meuf, tu vois, dans mon set, à un moment, je raconte mon rapport à l'alcool et que j'ai arrêté l'alcool. Et je parle juste de mon oncle qui me sert du vin et qui me dit, oh, mais c'est pas de l'alcool, c'est du vin. Et je dis, ouais, d'accord, et c'est pas du viol, c'est du zouk. Il y a une meuf. Et t'as une meuf un jour qui me fait, c'est pas bien de faire des blagues sur le viol. Et d'un coup, j'ai bugué, j'étais là. Attends.
J'aurais cru que c'était le zouk qui.
mais aussi, ça m'aurait plus tilté le zouk.
Genre, c'est pas cool pour le zouk.
Mais parce que comme tu
dans les deux cas, j'ai envie d'arrêter ta carrière.
J'ai envie de te dénoncer sur Twitter. Et mais non, mais ta meuf. Non mais tu sais, c'est la meuf qui me disait mais c'est pas bien, tu fais des blagues sur le viol. J'étais là et moi vraiment j'étais à quel moment je fais une blague sur le viol, attends. Et en fait les gens c'est qu'ils cherchent même plus à savoir le sens de la phrase. Ils entendent le mot. C'est comme si tu dis juif à un moment, c'est antisémite.
Ouais,
tu dis musulman alors que t'es pas arabe ou musulman, islamophobe et machin. Et en fait ça rend fou, tu vois.
Exactement, c'est vraiment ça.
Et Dieudo c'est l'inverse, il ne dit pas vraiment les mots.
Ah mais lui oui,
il les dit pas, il fait des enfin vous voyez. Et d'un coup, mais tu dis, mais le fond est dégueulasse. C'est très bizarre. On vit une époque de merde, les gars.
Vrai,
j'ai envie de me jeter.
Mais j'ai répété ça tout l'été parce que, en termes de musique, je pense que je suis vraiment pas né à la bonne époque. mes potes, ils vont rigoler parce que j'ai
quand t'aimes pas Jules, c'est ça que tu veux dire?
C'est Sardou qui te manque.
Autant béni des colonies. L'enfer. Non, mais ce qui. Non,
c'est Wari Lichen qui a un set sur Sardou. Il a un
qui
set.
Ça
c'est Wari.
J'ai envie de l'écouter.
Ah ouais
Wari a un set sur Michel Sardou. Alors, c'est une chanson que moi j'ai complètement oublié, que je connais plus, mais où à un moment il dit oui, ils ont peut-être le pétrole, mais nous on a le saucisson et le pinard.
Ouais, mais c'est autant béni des colonies.
Non, je crois pas que ce soit autant béni des
colonies.
Non, c'est une autre sur les Arabes en fait.
Mais comment il est donc. Est-ce que j'ai jamais compris cette chanson? Pourquoi a-t-il fait ça?
C'était pendant la crise du pétrole.
Non, pense... oui, non mais autant béni des colonies, pourquoi?
Ah, mais je pense qu'il est juste de droite.
Bah, il est de droite,
très
c'est
loin.
Tout.
Ah, mais droite oui. extrême.
Mais est-ce que t'as entendu sa nouvelle version de Femme des années 80
oui, voilà.
qui s'appelle Femme des années 2020.
Oui, qui, t'est,
qui est
suite,
incroyable, qui est une suite.
Une chanson qui était déjà même problématique.
Déjà problématique.
Donc là, on est plus sur du droite-droite, c'est, on est sur du miso, sur ouais. du.
Non, mais c'est genre, il dit bon, bah maintenant elles ont eu. Ça va, maintenant elles ont ce qu'elles veulent. Je sais pas. Enfin, vraiment, la chanson, c'est bon, les femmes, en gros, elles ont eu ce qu'elles demandaient et tout. Tu dis, attends, mec.
On est quand même loin de.
Mais la chanson est incroyable.
Mais est-ce que c'est ce qu'elle voulait vraiment?
Non, mais...
tu vois, ouais, exact. Oui, c'est exactement ça. Il le dit. Hein. Maintenant qu'elles ont ce qu'elles veulent, dès qu'elles se rencontrent, c'est pas exactement
je crois que
ce qu'elles veulent.
Zemmour, c'est le parrain de ses gosses, non? Il y a pas un.
Zemmour écrit tout ça.
Mais tu vois.
Mais
là,
je sais pas pourquoi j'ai une tendresse pour Sardou qui n'est pas du tout due à son truc raciste.
Après avoir dit Zouk, je suis mitigé dans tes propos. J'ai quand même bizarre.
Pourquoi Zouk et pas non, c'est un truc de frotteur.
Sous-entendu, tous les noirs violent. On a bien.
Oh là là. Moi, je vais partir de cette podcast. Ça me fait peur. J'aimerais continuer à jouer et à vivre, s'il vous plaît.
Nous, on n'a pas de carrière, donc on s'en bat les couilles, en fait.
Vous avez des métiers, vous avez de la chance. Toi, t'es dentiste, si ça s'arrête.
Moi, j'ai presque plus de métier. Hein. On va
ah
pas.
Bon bah mais non. Si, t'es auteur.
Mais, ah non, mais t'étais aux toilettes quand on a parlé de ça.
Tu as dit qu'il y avait de moins en moins d'émissions.
Il y a plus de moins en moins d'émissions, donc moins en moins de travail.
Ah ouais.
Donc moins en moins d'argent.
Pourquoi moi, tu travailles beaucoup sur les émissions de télé?
Ouais. Enfin, radio et télé, ouais. Mais il y a vraiment très peu. Moi, en plus, je suis sur une niche, je suis plus dans l'humour de. Tu vois, d'actu, de flux.
Non,
mais. De je peux te faire une émission entière sur le Zouk, mon ami.
Attention. Hein.
Mais non, c'est que dans l'humour d'actu et de flux, c'est-à-dire de tous les jours, de quotidien ou d'hebdo, il y en a très très peu maintenant.
Ouais.
Par rapport, il y a 15 ans, je serais propriétaire d'un loft place Vendôme.
Oui, du temps de Jean-Luc Delarue et tout ça.
Tant béni des colonies. Mais il y a 10 ans, 15 ans, à l'époque du Grand Canal et des trucs comme ça, je serais richissime.
Aujourd'hui, Internet existe et que du coup, les auteurs peuvent produire leurs propres trucs.
Oui, mais sauf que ça, c'est un peu la politique du travailleur chinois. C'est-à-dire qu'à un moment, les mecs, ils en battent les couilles de te payer,
on ubérise ton truc.
Ça rejoint un peu l'idée, c'est que Internet a pris un grand pas sur plein de choses. Du coup, les télés ont moins d'argent parce que les gens regardent moins la télé.
Mais c'est la TNT aussi qui a flingué le truc. C'est plus ça.
Les chaînes de télé ne payent. Enfin, je sais que les émissions, d'émissions que je vais, qu'on va, ou qu'on fait, ou qu'on a fait, moi je vois les auteurs, quand j'arrive sur un truc, on est 6-7 comédiens et qu'il y a deux auteurs, et ils comptent sur le fait que ce soit les comédiens qui écrivent. Je suis désolé, hein, j'aime beaucoup écrire, mais je pense que c'est pas mon métier premier.
Bien sûr.
C'est de jouer.
Oui, mais il y a un problème aussi de par exemple, je ne citerai pas la radio en question. Parce que j'essaye de garder des bonnes relations avec eux. Mais par exemple, moi, j'ai quitté une quotidienne il n'y a pas longtemps parce qu'ils nous ont mis une carotte officiellement. On avait commencé à travailler, puis au bout d'un moment, ils ont fait « Ah ouais, mais en fait, vous êtes 4 auteurs. Ah oui, mais non, on vous garde, mais il faut que vous acceptiez 700 euros de baisse de salaire. » 700 euros. 700 euros de baisse de salaire.
Chacun
déjà,
ou 700
ouais,
euros global.
Chacun.
Ok, d'accord.
Et déjà, on n'était pas ouf payés, tu
euros,
vois.
Quoi.
Non, mais en gros, on nous a demandé d'écrire une quotidienne pour une grande radio nationale au prix du SMIC.
Ouais.
Je ne dirais pas. Au prix du SMIC. Quand l'argument, c'est « Ah oui, mais on n'a pas d'argent et on n'a plus d'argent et tout », on dirait « Genre, vraiment ?» Enfin, c'est-à-dire que maintenant, tous les grands groupes, les chaînes et tout ça sont tenus par des grands groupes de médias.
Mais genre, en vrai, je pense que c'est vrai, ils n'ont plus d'argent. Je vais vraiment aller plus loin. C'est que au lieu de acheter du caviar, ils achètent que des œufs. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc à un moment donné.
Surtout, ils s'en foutent.
À leur niveau, ils peuvent plus. Ils perdent de l'argent. Du coup, ils disent.
Oui, mais aussi, c'est qu'ils
pas
s'en
avoir
foutent.
Le même, ils s'en foutent de toi.
Ils s'en foutent aussi du travail qualitatif. C'est-à-dire que
les gens vont écouter. En fait, tu vois ce que je veux dire ? Quand t'as quand même ton auditoire. Pourquoi est-ce que j'améliorerais ce que je fais, en fait ?
Mais c'est là où c'est le problème d'avoir maintenant des mecs qui gèrent, que ce soit les Bolloré et tout ça, qui gèrent des chaînes de télé ou des radios comme s'ils géraient une usine de machines à laver.
Mais ça a toujours été.
Non, ça n'a pas toujours été comme ça.
De la gueule de ce gars-là.
De Jean-Marie Messier.
Oui, exactement.
Oui, mais Jean-Marie Messier, il ne mettait pas son nez dans le contenu éditorial de Canal à l'époque. C'était quand même De Greffe et tout ça qui gérait.
Certes, mais il peut déjà. Oui, bon, à l'époque c'était resté comme ça, mais tu vois, c'est des gens aussi qui peuvent dire, qui peuvent virer un directeur des programmes parce qu'ils aiment pas spécialement.
Ou alors mais tant que ça marchait, ils s'en foutaient.
Tu vois ce que je veux dire ?
Non, parce que maintenant ils virent les gens pour des raisons idéologiques. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que Bolloré, alors Canal perdait de l'argent, mais ils ont pas viré tout le monde parce que d'un coup, c'était des raisons idéologiques. Par exemple, la seule émission qu'ils ont gardée, que Bolloré a accepté de garder, c'est Groland. Ce qui est quand même bizarre, tu vois. Il paraît que Bolloré est fan de Groland. Mais parce que c'est un truc qui est pas bobo, qui est anti-bobo, et qui est machin, truc. Donc c'est idéologique. Ouais. Donc c'est même plus des trucs financiers.
C'est parce que j'aime, je garde, j'aime
voilà,
pas, je
j'aime...
dégage.
Exactement.
Alors que ça peut plaire à plein de gens, mais
ce qui est con parce que c'est...
le petit journal, c'est ce qu'ils ont fait avec Barthès.
Oui,
tu vois, c'était pour
c'est
des raisons purement idéologiques.
En fait. Parce que dans le sens où moi, si j'ai un grand groupe, je préfère monopoliser tous les flux de pensée. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que s'il y a des émissions avec lesquelles je suis pas d'accord, mais je préfère en avoir une sur ma chaîne plutôt qu'elle soit sur une autre chaîne. Tu vois ce que je veux dire ? Au moins, j'ai tout et je peux avoir tous les téléspectateurs possibles, tu vois.
Puis, il y a d'autres problèmes aussi que j'ai eu à faire, moi, quand on était à la grosse émission. C'est que souvent, les gens qui te donnaient des retours ou qui te disaient c'est bien, c'est pas bien ce que tu fais...
Ils connaissent
des...
rien.
C'est... Non, complètement.
Ça,
ils n'ont jamais mis un pied sur scène. Ils n'ont jamais écrit une ligne de texte. Ils n'ont jamais rien fait en termes d'artistique purement sur l'humour pour ce qui nous concernait, nous, à l'époque.
Ils n'ont aucune vision
plus,
de rien.
Début, tu prends, quand tu connais pas, moi j'arrive, je débarque dans ce truc-là, tu te dis, ah ok, pardon, c'était pas bien, ok, d'accord. Et en fait, t'avances, et un jour on te dit, mais tu sais où elle était il y a 2 ans, elle était responsable chez L'Oréal. Commercial ou un niveau très haut chez L'Oréal, mais du coup, tu viens me donner un avis artistique.
Mais ça, c'est le
alors que t'as
moi,
jamais
j'ai
rien
mon
fait.
Mon pire rendez-vous professionnel de ma vie, c'était chez un distributeur cinéma, donc qui a beaucoup d'argent et qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma français, tu vois. Où le mec, déjà, était d'une condescendance terrible, puis il arrive, il me fait « Vas-y, pitch-moi un truc. » Tu vois, comme ça, je fais « Je sais pas, c'est vous qui me demandez de venir, enfin, c'est à vous de me pitcher un truc, quoi. » Et le mec me dit « Non, mais attends, ça n'a jamais été fait, donc si ça n'a jamais été fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Non, t'as pas un truc, machin. » Et j'étais là « Ah ouais, on en est là, en fait. »
Redonne-moi le même
Redonne-moi
scénario
un truc que tout le monde connaît.
Mais il peut pas bouger ses bras, en
c'est
fait.
Ça. Et en fait, j'apprends, genre peut-être un an plus tard, en discutant avec un réal, il me fait « Mais tu sais, c'est qui ce mec ?» Je dis « Non, non. » Fait « Ce mec, à la base, travaille dans une boîte d'audit financier. » Et j'étais là, mais c'est pas vrai. Il fait, ouais, puis il est arrivé, il a fait un bon audit, donc on l'a nommé directeur financier. Puis comme il est un peu réseauteur et machin et tout, il a été nommé vice-président de ce grand groupe de distribution du cinéma français. Et tu dis, donc, je comprends maintenant pourquoi le cinéma français va mal.
Mais c'est sûr.
Parce que t'avais des mecs comme des Claude Berry ou des gens comme ça, par exemple. Claude Berry, c'était des scénaristes, des acteurs, des réals qui avaient une vision artistique. Ils en avaient, oui, ils pouvaient se dire, ok, je vais monter, alors ce truc-là va peut-être pas faire beaucoup d'entrées, donc je vais peut-être monter ce truc là, mais on va pas perdre en exigence, ce truc là va bien marcher, ça va permettre de
bien
produire
sûr,
des petits trucs et tout. Maintenant ils s'en battent les couilles.
Mais tu sais, je veux dire, le cinéma
niveau, pardon, à un très haut niveau, il y avait une espèce de respect pour les auteurs et les artistes
qui a
et
plus du tout.
Aussi vraiment juste une passion, c'est-à-dire qu'en gros les gens qui avaient la thune,
ils aimaient ça.
C'était le côté un peu à l'ancienne mécénat, tu vois.
Ouais, mais ils te mettaient l'argent et ils disaient, vas-y, fais.
Exactement.
Et maintenant, on ne te fait plus ça. On veut donner son avis, on veut avoir un regard, on veut dire.
Non,
avant,
puis
c'est
il va tout de suite savoir si ça va être rentable ou pas aussi.
Bien sûr,
c'est ça.
Oui,
et...
malheureusement. Mais... aux États-Unis, juste pour revenir au cinéma, on nous dit souvent, ouais, mais les budgets en France, pas conséquents. Mais aux États-Unis, les budgets ne sont pas plus gros, à part pour les blockbusters.
Oui.
Évidemment, il y a des grosses sommes pour les gros films, mais il y a plein de films indés qui cartonnent.
Qui
n'y a que dalle comme argent.
Et tu le vois.
Et qu'en France, on est pareil, sauf que nous, en France.
Même pour des séries, hein, même pour des
mais
séries
bien sûr,
américaines.
On nous sort l'excuse à chaque fois des budgets, mais c'est faux.
Non, c'est
il y a
pas vrai.
Énormément de films, et je pense qu'il y en a même plus de films aux États-Unis qui n'ont pas beaucoup de budget et qui font des vrais cartons et qui ont une vraie idée. Enfin, il y a un vrai truc artistique, et qu'en France,
parce qu'on prend plus de risques aussi.
Après,
aux États-Unis, je veux dire. Mais après, c'est vrai que c'est par rapport au volume, donc c'est toujours.
Non, mais je pense qu'en France, on n'aime pas l'inconnu. Il y a un truc où il y a une espèce de peur de l'inconnu, peur des nouveaux trucs. Je suis désolée, moi, c'est l'impression
que
j'ai ça.
La France a toujours été un peu le berceau des films
avant
jusqu'à
on a perdu un peu de notre splendeur.
Après, non, j'allais prendre comme exemple genre film de Verhoeven, la Elle avec Isabelle Huppert, des trucs, bon après c'est
qui est le truc le plus malaisant
t'as
du monde.
Un nom t'as toujours quelque
t'as
chose
toujours un nom derrière quoi.
Mais on fait pas confiance il y a combien je te jure
regarde les séries rien qu'en série quoi.
C'est pas méchant, mais quand je vois les films français, certains films français, et je vais pas en citer parce que j'aurais que ça à citer, mais tu te dis mais et je connais même tu fais des concours 48 heures des concours comme ça à Paris de réels, tu vois des mecs qui se gavent qui font des vrais réels, qui ont
un vrai
sens du cinéma,
kinos,
qui ont étudié le cinéma, qui ont bien, et qu'on va pas donner ces chances là à ces mecs là alors que aujourd'hui on va faire confiance à des mecs qui te font des comédies ou des films, et tu dis mais qu'est-ce que, et ça marche pas en plus. C'est ça le pire, c'est que ça ne fonctionne
si
pas.
Si au moins ça marchait et que du coup tu te dirais ok, ils lui ont donné de d'argent pour son second film because le premier a fonctionné, mais même pas.
Même
c'est
pas.
Juste que, ouais.
Mais ça, après, t'as tout le système de financement aussi du cinéma avec le CNC aussi. C'est un truc.
Mais c'est, je vais peut-être être un peu dur là-dedans, mais c'est comme tout en fait. C'est un réseau, ouais. Comme les labos, ce que critiquer, on reparle de Raoult, mais quand même critiquer les labos pharmaceutiques. Mais il y a un vrai réseau.
Comme quoi on est revenu dessus.
Non, mais il y a un vrai réseau. Il y a un vrai réseau là-dedans, il y a un vrai réseau dans le cinéma, il y a un vrai réseau. C'est, ouais. Regarde les films, regarde les trucs, c'est toujours les mêmes personnes. T'as beaucoup les mêmes. De temps en temps, t'as une tête nouvelle, t'as un.
Non, de temps en temps, t'as des trucs
mon
sympas.
Espoir, mais sinon. C'est juste que, justement, il y a un réseau d'une nouvelle génération qui arrive à s'implanter un petit peu, tu vois, pour faire un peu le.
Faut que la vieille garde, ils crèvent tous, là, en fait, c'est ça. Il faut que la vieille garde, là, qui tient les rênes, crève tous, quoi.
Ouais, moi, je pense pas que ce soit la vieille garde, au contraire.
À l'américaine, tout ce qui était arrivé par Judd Apatow et tout ça, eh ben, ça pourrait arriver aussi en France. C'est-à-dire, tu sais, des gens qui commencent à. Qui ont un succès et puis ils commencent à faire rentrer tous les autres. Qui pensent comme eux et qui sont aussi de bons auteurs, etc. Tu vois. Mmh. Je crois que. Ouais, je crois qu'il va passer sur TF1. Je pense que c'est Cyril Hanouna.
J'ai faim.
Ouais.
Non, mais moi, je vois, c'est par exemple au niveau des séries, tu vois, par exemple, on parlait séries, genre un truc comme Succession. Ouais. En France, n'aurait jamais trouvé mais un centime.
Succession
est incroyable.
C'est le pays. Où il faudrait faire un Succession en France avec la vieille aristocratie, la haute bourgeoisie parisienne qui ne se connaît, qui ne va qu'entre eux, etc. C'est l'endroit où tu peux parler de ça, quoi.
Ouais, mais même au-delà de ça, c'est, tu vois, une série où t'as pas vraiment de gens ultra connus dans la série.
Ouais.
T'as pas une resta ou n'importe quoi. T'as qui parle de ces sujets-là. Avec cette complexité-là, avec ces dialogues-là, avec cette réelle-là, tu te dis, il ne prendrait jamais de risque ici.
En vrai, il n'y a que Canal+ qui, tu vois.
Tu regardes.
Canal+ tire sur son dos toute l'originalité quasiment française.
Oui, mais regarde, hier par exemple, j'étais sur My Canal en train de chercher une nouvelle série à regarder, tu vois. Je regardais le truc des séries, il n'y a que des têtes d'affiche. C'est-à-dire que tout est porté par une star. T'as Louise Bourgoin dans Hippocrate, t'as Laila Bekti dans Jour Polaire, t'as un tel pour un truc. C'est-à-dire que jamais ils vont prendre le risque de faire des confiances à des auteurs. Et alors, moi qui suis en plus en plein là-dedans, en train de lire tous les bouquins sur HBO et sur les showrunners et tout ça en ce moment, c'est que aux États-Unis, en tout cas sur la télé.
J'essaie de m'intégrer comme je peux. Comme
non, mais
si
tu vois,
elle nous fait une analyse de ce qui
non, mais c'est vrai. C'est que sur la télé, en tout cas.
Ils ont refusé plusieurs scripts de séries.
Ouais, grave,
là,
ça me rend dingue.
Aigre.
Non, mais c'est que sur les séries, ils ont. Il y a eu vraiment une bascule au début des années 2000, tu vois, où d'un coup, on a fait confiance aux auteurs, en fait, et que les pleins pouvoirs sont chez le scénariste aux États-Unis. Pour les séries.
Ah oui, souvent. Comme les pleins pouvoirs sont au réel quand ils tournent un film.
Le scénariste, en tout cas aux États-Unis sur la série, le showrunner, celui qui imagine le créateur de la série, a les pleins pouvoirs.
C'est pas vraiment le scénariste, hein, le showrunner.
Oui, mais à la base, ça vient de. Il est scénariste.
Bien sûr, il vient de là.
David Chase dans Les Sopranos, à la base, c'est lui qui a écrit le truc.
Il a écrit le pilote.
Il a écrit le pilote, il a écrit toute la Bible du truc et tout. C'est pas un mec qui débarque. Après, il délègue et tout.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, en France, on n'a pas de showrunner. C'est rare.
Bureau des légendes.
Bureau des légendes, il n'y a que ça.
Eric Rochon.
Mais le problème,
c'est. Et ça se voit.
Mais je ne comprends pas, du coup, tu vois, par rapport à ce que tu disais, quand les trucs se plantent et ils redonnent de l'argent, je comprends pas pourquoi, les gars, le Bureau des légendes fonctionne. Et j'ai l'impression qu'ils comprennent pas pourquoi ça fonctionne.
Bah parce que vous avez filé.
Parce que Eric Rochard est trop fort.
Et parce que c'est un scénariste en fait.
Et que c'est le scénariste.
C'est le scénariste.
Qui dit comment faire le truc.
Et que ça vient pas d'une demande, d'une commande, d'une
prod,
machin.
Et puis pas tout le monde est astier. Tu vois ce que je veux dire? Pas tout le monde peut tout gérer comme il fait. Donc souvent ils disent c'est grâce à ce mec là. Mais non, c'est juste ce poste là qui est important.
C'est ça.
C'est surtout ça. Il y a des showrunners. Lui est bon parce qu'il a prouvé avec des choses.
Astier, il fait tout.
Oui, c'est ça. Pas tout le monde peut être astier. Moi je suis.
C'est un génie. Alors tu sais que j'ai été régie. Moi j'ai fait de la régie sur Kaamelott.
C'est pas vrai.
Ouais, et même j'ai été figurante. Tu peux me voir passer avec des petits macarons derrière le roi Arthur.
En mode Princess Leia.
Non, mais ouais, un peu, ouais.
Nous, on a une série qu'on a tournée avant le confinement qui s'appelle Whoosh, qu'on a fait deux pilotes avec Benjamin Tranier et Patrick Chanfray.
Oh, nice.
On a tourné ça. On a.
Tranier qui est un des mecs les plus drôles.
C'est quoi d'être le moins drôle de ce.
c'est moi le moins drôle, ouais, c'est ça. Ah, mais c'est... ah, mais je l'assume. Mais non, mais en plus, c'est marrant parce que j'avais une discussion il y a pas longtemps avec un pote où je disais, avant, plus jeune, j'étais très mince, très, très élastique. Ouais. Donc, on me donnait toujours des rôles. C'est mon dieu. J'avais toujours des rôles de Benet, d'Auguste, tu vois. Ouais. Et en fait, quand je suis arrivé à Paris, après, voilà, tu t'essayes de t'arranger physiquement, de t'améliorer. Enfin, voilà, tu veux rentrer dans un...
Tu veux être beau gosse, tu veux pécho, quoi.
Bah ouais, c'est triste, en fait. C'est dommage, je trouve, parce qu'il y a un... Tu vas aller chercher un autre truc que c'était pas ta nature au départ, oui. De vouloir aller au sport, de vouloir te former
un peu. Peut-être plus consensuel, du coup.
Oui, comme... c'est, voilà, pour rentrer dans des cases, et c'est dommage. Mais en vrai, voilà, c'est... Après, c'est aussi pour le bien-être. Moi, j'ai toujours aimé le sport et j'ai toujours fait ça pour... Mais en vrai, et on m'a toujours donné des rôles d'Auguste, et au final... Quand à un moment donné, on me donnait plus ces rôles-là, on me disait, bah non, toi, tu vas faire ça, ça, et que je me retrouvais avec les gars qui étaient vraiment très drôles, bah, comme Binge, comme Patrick, comme machin. Et en vrai, tu vas chercher autre chose, un autre jeu. Et c'est grâce à Nicolas Roux, un auteur qui un jour nous appelle avec Patrick et moi pour dire, vous allez tourner une pub pour EDF, si ça vous branche, moi j'écris pour tel machin, je suis ok, on me dit ok. Et je reçois les textes et je lis et je dis, putain, je l'appelle, je dis, mec, t'as écrit pour Patrick, là, moi je sers la soupe, quoi.
Ouais.
Et il me dit, non, Joe, pas du tout, regarde, lis bien et tout. Bah, je lis trois fois, non, je sers la soupe, je fais le tournage. Et en fait, pendant que je joue, je me rends compte de ce qu'il me dit et je dis, ben, en fait, il a raison. Ouais. Il va faire rire avec ça. Patrick a un humour, voilà, pour moi, c'est un des mecs les plus drôles du monde. Il va faire. Mais toi, derrière, ça te permet et ça te fait cogiter, aller chercher quelque chose d'autre.
Ouais.
Des petites nuances, des petites choses que tu vas.
En termes de présence.
Ouais, que tu n'avais pas. T'as pas l'habitude. Tu vas jouer vraiment. En fait, et c'est pour ça que souvent, quand on me dit, ouais, mais c'est chiant d'être le pouce blanc et pas l'auguste, je dis, bah, en fait, maintenant, je suis persuadé que non. Binge, il peut te le dire, on a bossé 4 ans ensemble, un an sur la grosse émission, 3 ans sur Bénure. J'ai pas lâché, je dis, faut qu'on fasse un duo. Alors lui, il voulait pas et il a raison parce que
ça marche très bien sans toi.
Très bien sans moi. Il a entièrement raison. Non, mais en vrai, c'était parce que aussi j'aime beaucoup ce mec-là et que c'est humainement, c'est un mec vraiment dans ce métier.
Bosser avec les gens que t'aimes, quoi.
Bah oui, et puis particulièrement, il a vraiment dans le milieu, t'as des gens qui sont sympas et qui paraissent sympas ou qui machin.
Mais il paraît que c'est, ouais. Moi, je connais très bien son auteur Zaïd qui est amoureux de Benjamin.
C'est deux potes.
Zaïd, tu es amoureux de Benjamin.
Mais oui, non, mais parce que Benjamin est un vrai gentil. Il est gentil sur scène, il est gentil en dehors de la scène, il est gentil en pote, il est gentil. C'est un vrai gars, un vrai monsieur, j'ai envie de dire aujourd'hui, monsieur, oui. Et c'est plaisant parce qu'il n'y en a pas énormément
des gens qui
sont vraiment comme ça.
Parce que nous, on est des fils de pute, par exemple.
Non, c'est pas ça. Non. Non, mais parce qu'on a bossé 4 ans ensemble quand même et on continue de temps en temps sur d'autres projets. Non, mais j'ai failli chialer. Mais du coup. Tu vois, et c'est vraiment un. Et pourquoi je disais ça du coup?
Je sais pas. On parlait de quoi à la base?
Donc, Didier Raoult. Non. Non, mais voilà, oui, bien sûr. Non, mais en fait, ça t'apprend. Et en fait, je dis, viens, on fait un duo. Et. C'est clair.
Je lui dis, viens, on fait un duo.
Il me dit non, bah parce qu'il avait vraiment envie de ce truc solo. Et il avait raison. Et en plus, il sortait d'un duo où ça s'était pas très bien fini. Et du coup.
Avec Dieudonné, justement.
Et je me rappelle le truc de son duo à l'époque, quand je voyais le duo. L'erreur pour moi, c'était de pas laisser le lead à Binge.
Ah, okay.
C'est-à-dire que son dualiste voulait absolument faire rire autant. Mais tu peux pas, en fait. Quand t'es confronté à quelqu'un comme Binge, comme Patrick, quand t'es à côté d'eux, tu peux pas être plus drôle qu'eux. Ouais. C'est pas possible.
Mais c'est le principe des duos comiques.
Mais c'est là où, exactement. Mais c'est là où la force. Mais oui, mais c'est là où la regarde, je te donne un exemple. Allez, en 80.
Non, mais c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde.
Ouais, mais l'intelligence de pouvoir se dire, ah putain, je vais pas être faire rire autant que lui, mais d'aller trouver quelque chose d'autre qui va t'amener autre chose. Et qui forcément regarde Omar et Fred. L'Auguste, c'était Fred. Ça n'a pas empêché Omar de faire une carrière gigantesque. Et quand tu prends Élie et Dieudo, Élie, c'était l'Auguste. C'est lui qui faisait rire. Moi, quand je me rappelle de plus jeune, de regarder le duo, j'étais un fan inconditionnel d'Élie Semoun. J'étais là, mais c'est lui, c'est un génie. Et ça n'empêchait pas.
Mais l'Auguste est très drôle grâce à l'autre, en fait.
D'être un monstre de comédien. Donc,
mais t'as Garcia Decaune, je repense à des trucs vachement plus vieux. Genre dans la cage aux folles, Serrault ne serait pas aussi drôle s'il n'y avait pas eu Poiré à côté.
Bien sûr, mais évidemment.
Obligé,
tu sais, j'ai une anecdote d'un mec, d'une personne qui m'a raconté cette anecdote, qui les a connus, De Funès et Gabin. Ce qui a un peu brisé intérieurement De Funès, c'est Gabin qui voit arriver De Funès sur le tournage et qui dit tiens, voilà le clown.
Okay.
Et ça, De Funès, ça l'anéantit. De Funès, c'était un comédien, c'était quelqu'un qui était cartonné. Et qu'un mec, une légende comme Gabin puisse dire, tiens, voilà le comique ou voilà le clown, bah, en mode, c'était en mode.
Mais ça, c'est pas une insulte de ouf, ça, quand. Moi je digresse, mais genre, non, mais toi, t'es un peu un comique. Le terme comique, dans la bouche des non-initiés, enfin,
alors que moi,
devient
c'est...
très vite
moi,
insultant.
Moi, c'est un compliment
pour
moi.
Si je dis comédien, c'est là. Enfin, comédien, genre en mode.
Non, mais souvent, c'est utilisé.
Mais là, l'insulte, elle est là.
Mais non, mais moi, par exemple, j'ai eu une embrouille avec un ex. Enfin,
ouais, on va rentrer dans des histoires. Moi, je veux pas savoir. Oui, commence à me jeter la fenêtre par la fenêtre. Commence à s'engueuler.
Non, son ex, à ce mec, lui avait dit genre, ouais, c'est ça, bah, pars en week-end avec ta comique.
Ouais.
Et c'est. Tu vois, et ce terme, quand c'est utilisé souvent, on dira pas avec ton humoriste, parce que tu fais, ouais, cool, merci, tu vois. Mais genre, le terme comique.
Moi, je trouve
que c'est genre, ah, petit comique, arrête de faire ta petite comique, tu vois. Arrête d'être un petit comique. Tu vois, il y a un truc.
Parce que tu prends. Parce que c'est pas parce non, que t'as l'impression que c'est pas pris au sérieux.
Non, parce que dans la tête des gens, non, je crois que dans la tête des gens,
arrête de faire ta comique, ça arrête, c'est un sous-entendu d'arrête de faire comme les comiques. Ouais, voilà. Donc tu n'es pas, c'est comme un pote qui est réal et il a gagné des prix de meilleur réal, il est vraiment très bon, pointu, donc il a un gros niveau, tu vois, mais il est pas connu. Et il fait des courts-métrages, machin. Et à chaque fois qu'il montre un de son travail à quelqu'un qui est pas du métier ou qui dit, putain, ça fait pro.
Ouais,
ça. Oh, putain, c'est.
Mais je suis pro,
violence.
En fait.
Je paye mon loyer,
mais
en
oui,
fait.
Je suis pro, bordel. C'est pas parce qu'il n'y a pas mon nom affiché dans tous les trucs de cinéma que je suis pas réalisateur.
Mais c'est comme quand à un moment tu. Enfin, moi, par exemple, ma grand-mère maternelle, quand je faisais du théâtre, et je faisais du théâtre, j'ai joué à Avignon et tout, tu vois, des trucs bien. Elle me disait, mais c'est quand on prend de voix à la télé? Pour elle, il y avait un
mais
truc.
Mais alors ça.
C'est quand qu'on te voit à la
en
télé?
Vivre
mais t'arrives à en vivre. Et
pardon
tu...
Mais... Non, je suis mendiant le reste du temps.
Non, mais le truc, c'est que comme si tant qu'on ne t'a pas vu. Alors,
exactement.
C'est peut-être plus l'ancienne génération maintenant, la nouvelle génération avec Internet et
ça
tout, ils sont un peu moins.
Ça dépend qui. C'est toujours pareil, à mon avis, c'est pas une question de génération, c'est une question, je vais être dur, d'intelligence.
Oui.
C'est juste que si tu te renseignes un peu, si tu vas un peu chercher.
Oui, mais t'as des gens. Genre, moi, ma grand-mère, c'est une paysanne du fin fond de la Lorraine, tu peux pas lui demander.
Oui, il faut dire intelligent, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il y a 80% des gens qui, justement, ne vont pas s'intéresser.
Voilà.
Ils attendent juste qu'est-ce qui se passe à la télé. La télé m'offre ça. Si tu n'es pas à la télé, tu n'es pas.
Exactement.
C'est comme quand tu discutes avec un chauffeur de taxi ou un chauffeur Uber qui te dit.
T'es artiste, mais tu galères.
Ouais, c'est ça.
Mais vous connaissez des stars.
Mais le nombre d'intermittents qui. Ben voilà, ils vivent leur
vie. Bien sûr, ils sont
bien
pros.
En faisant un truc qu'ils adorent, tu vois.
Ah ben moi, ça fait 15 ans que je suis intermittent et j'ai.
Tu vis pas très bien, tu.
je suis quand même blindé, hein. pas du tout, non, mais tu vis bien.
Tu viens, ouais, tu
très
vis
très
en
bien,
tout
c'est
cas.
C'est pareil, le mot trait, il sort d'où. C'est bien, je vis bien, on mange bien, on vit bien.
C'est-à-dire que tu vivrais en province, tu vivrais très bien.
Ah bah oui. Déjà, en ayant un loyer comme j'ai, forcément, province, t'as F4 avec ce que tu
as. On en est là.
De ramener ça à un truc. Les gars, on peut juste être heureux d'être artiste sans forcément être tous les jours à la télé.
Bien sûr, puis t'as pas envie en fait.
Non, si,
moi, je vois les shitstorms que tu peux te prendre fois en télé.
Je crache pas sur la télé, bien au contraire.
Non, mais c'est pas la télé le problème.
Si je dois y
mais
être...
c'est
ça, ce que tu es pas. Mais...
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'important, à mon avis, c'est que ça soit télé, cinéma, série. One man, théâtre, c'est de faire quelque chose qui te correspond, en fait. Tu peux, si t'es dans une émission que tu es sur chroniqueur, sur TPMP ou chroniqueur, sur quotidien ou chroniqueur, et que c'est ça que tu visais, c'est ça le plus important. Si tu te fais une émission où t'es pas dans ton registre et tu le fais parce que tu veux être connu,
est-ce que t'es en train de nous dire qu'il faut être nous-mêmes?
Oui, j'ai l'impression d'être un crooner avec ce micro. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Si tu fais les choses, si tu dis tu es sur chroniqueur parce que tu veux être connu, parce que tu gagnes, parce que tu, ben là tu te plantes, parce que finalement à un moment donné ça, il va se passer un truc. Si t'es pas bien, ça va se sentir.
Mais alors tu sais que quand même récemment j'ai une de mes œuvres qui a beaucoup buzzé.
Ah.
Et que personne ne sait que je suis derrière.
Qui a beaucoup baisé ou buzzé?
Beu.
La beu. Ouais. Buzzé.
Ouais, le truc, c'est triste. Hein. Le truc qui a le plus buzzé dans ma carrière, c'est le truc dont j'ai le plus honte, qui sont ces fameuses pubs pour la chasse.
What? Mais c'est génial. En fait, c'est comme si
les meufs qui disent.
Alors celui-là, c'est pas moi. J'en ai deux autres moi dedans.
Ouh.
Et tu vois, j'ai découvert.
C'est toi qui as écrit ça?
Alors pas les deux meufs Ulkinoa.
Ouais.
Mais j'ai sur toute une campagne, il y a plusieurs spots, j'en ai écrit deux.
Attends, c'est lesquels?
Oui, faut que tu dises.
Non, c'est pas possible.
Bah c'est les meufs.
Non, c'est pas les meufs.
Ah oui, d'accord, c'est la pire, quoi. D'accord. Fais-moi penser à pas te prendre en tant qu'auteur.
C'est pas... Non, mais c'est pas ça, attends. Mais en fait, c'était surréaliste.
S'il fait un sketch sur les juifs, mais si tu dis ça va marcher. Mais vas-y, putain.
Est-ce que c'est Greenpeace? Tu sais,
c'était surréaliste, putain. Parce qu'en fait, j'étais dans la merde financièrement. C'était juste avant le confinement, tu vois. J'étais dans la merde financièrement. Franchement, je commençais un peu à pleurer intérieurement. Et on m'appelle.
Et puis, le confinement, ça.
Ça
a vachement bien arrangé.
Grave.
Tous les trucs.
Et il y a un mec qui m'appelle qui me dit ouais, j'ai eu ton numéro par un tel, blablabla. Il me dit voilà, en fait, on est une agence de pub. Et moi, j'aimerais bien écrire des pubs et tout. Je dis ah, bah super, formidable et tout. J'ai plus d'argent. Je dis génial. Il me dit bon, voilà, alors c'est pour écrire des pubs pour la Fédération nationale de la chasse. Et moi, j'ai un bug. Je suis contre ça, les biches qui ont rien fait, tu vois. Et je suis bah, bof et tout. Il fait ah non, mais bon, tu sais, c'est payé 1000 euros la pub. Hein. Bah, écoutez, on va le faire.
Ta mère, la biche.
Mais c'était exactement genre, ok, balèque la biche, ouais, c'est quoi, c'est combien.
Des posters de Bambi avec du sang.
Je te jure.
Elle a quand même promis que quand elle ira à Monoprix, elle n'achèterait pas de biche.
c'est
déjà sympa. Je
et non, mais c'est bien, j'ai découvert que mon âme valait donc 1000 euros. Mais.
Non, mais ton 2000. Âme en coup dur. C'est
mon
pas la même
âme
chose.
En coup dur.
T'aurais été bien, tu travaillerais.
Mais tu sais que quand j'ai commencé à voir que tout le monde les relayait, sur tout... Parce que moi je me suis dit, ça va être un pauvre truc digital,
oui,
que personne ne va
pas,
calculer. Et en fait, je voyais
surtout
genre les David Azincote, tu sais, mes potes, quoi, tu sais, qui commencent à le partager en disant, bah c'est honteux, bah vraiment c'est de la merde et tout. Je te jure, je pouvais pas m'en empêcher de me dénoncer. Tu vois, maintenant je ouais. le dis, mais je pouvais pas m'empêcher d'envoyer des messages aux gens, genre tu sais, à Jean Moundir sur Twitter, qui est un super auteur que je connais bien, qui s'appelle Romain, et je lui ai envoyé.
Il se fait appeler Jean Moundir. Il s'appelle Romain.
Jean,
tu connais le nom Jean,
bah, c'est un des meilleurs comptes Twitter qui existe, quoi. Il est très très drôle et il est auteur, il s'appelle Romain. Et je lui envoyais des messages en disant « Alors, tu vois le truc que tu viens de poster? Tu veux rigoler ?»
Et
je sais pas pourquoi je me sens obligée alors qu'on de m'excuser,
de
même
faire,
de l'assumer, fait. Alors qu'en fait je pourrais juste dire ah oui c'est vrai que c'est vraiment honteux ces spots.
Mais c'est marrant ce que tu dis,
tu
parce que en fait ils font appel à des humoristes, auteurs humoristes pour écrire ça. Donc
oui,
c'est aussi ce qu'ils
mais ils voulaient des
aussi.
Trucs drôles. Mais c'est ça qui est fou.
Drôle
c'est...
mais polémique aussi.
Non, il voulait rajeunir. Mais non, parce qu'en
le
fait.
Le sujet est polémique, c'est
ben oui.
Déjà, non, mais dans la pub.
Et en plus, tu vas chercher des humoristes. Donc, t'avais. C'est... Regarde ce que tu dis là. Regarde tous les Twitter, tous les trucs. Ça a fait parler. S'ils ouais. avaient pris un auteur de lambda en disant la chasse, c'est bien, faites attention.
Non, alors tu sais, c'était quoi la demande de base?
Tu vois,
portez
attention.
Votre gilet.
Ouais, voilà, machin. Bah, on n'en aurait pas parlé et ouais. ça aurait pas
non.
fait de buzz. Aujourd'hui,
mais la demande initiale, parce enfin, que après, tu sais, t'as plusieurs strates. C'est-à-dire que t'as le client, donc la fédération de la chasse, t'as l'agence de pub qui est chargée de trouver les auteurs, faire la prod et tout, et nous. Et donc c'est même pas l'agence de pub en soi, c'est eux qui disent en fait on voudrait un peu élargir et dire que les chasseurs ne sont pas forcément ceux qu'on croit, ok, et on veut que ce soit drôle, ok, moi je ponds un truc qui objectivement me fait beaucoup rire, qui est très absurde et qui est très très con, sur une espèce de fausse pub de régime où t'as un vieux Roger qui devient Georges Clooney après avoir fait de la chasse. Très absurde. Les
ça,
mecs.
C'est celui que t'as écrit, toi.
Ça, c'est celui que j'avais écrit et que, dont j'étais. Mais c'est normal, il n'a pas été pris.
Ah.
Parce qu'il était drôle. en fait, tu vois. Il était là, bon, on n'a pas compris. J'ai dit, non, mais. Non,
tomber,
mais.
Le prends pas. Le prends pas.
Tu sais quoi
le prends pas.
Bon, vous savez quoi, on va faire un truc. Et en fait, les deux trucs que j'ai. J'en ai envoyé plusieurs et les deux trucs qu'ils ont pris
c'est
étaient les trucs les plus à chier, en fait. Et tu dis, mais putain.
La pub, c'est souvent ça.
C'est terrible.
Moi, j'adore Carglass, par exemple. Je trouve que c'est du génie, Carglass.
Eh mais... ben, je dois te dire,
en
bah
vrai,
c'est vrai.
Ouais, non, mais en vrai, pour moi, Carglass, c'est du génie parce que.
Mais
c'est tellement horrible que ça reste.
Mais ça reste.
C'est pas plus gros qu'une pièce de. Et le mec qui joue mal, ils prennent un mec qui joue mal exprès, ou je pense qu'ils prennent.
Carglass répare, Carglass.
Ouais.
C'est resté, quoi. C'est dur à dire d'ailleurs, attends, Carglass répare.
Ah ouais. Bah,
c'est hyper dur à dire.
C'est des
non,
spéciaux.
C'est Carglass répare, Carglass ouais. remplace.
Personne
Carglass,
ne peut le dire, ça a
Carglass
été.
Carglass répare, Carglass, Carglass remplace.
Non, attends, il y avait
c'est
une autre pub qui est horrible.
Tu Juvamine et tu le mets deux fois.
Mais ça, c'est que c'est Ardisson. Tu sais que c'est Ardisson qui a trouvé. Juvamine, c'est que c'est Ardisson qui a écrit ce slogan.
Ah ouais.
Oui.
Ah oui, putain, j'ai lu ça il y a pas longtemps.
Oui, genre Ovomaltine, c'est de la dynamite, c'est Ardisson aussi. Tropico, trop bon, c'est Tropico.
De la.
De la dynamite.
Non.
Bah si.
C'est de la dynamique. Ils disent.
Ah bon?
Pas de la dynamite. J'ai
ça
toujours cru.
Oh, il est trop fort!
C'est parce que j'ai eu, il y a pas longtemps, j'ai
parce
dit exactement
est,
comme
il
toi, il y a un mec qui m'a dit
justement.
Non.
Il connaît tous les slogans des années 90.
Moi, je me cultive partout, d'accord? Et l'ovomaltine, c'est de la dynamique. Dynamique,
ah.
de la dynamique. Pas de la dynamite, parce qu'il jette une dynamite.
Oui.
Donc, c'était le jeu de mots. Ah, mais comme toi, il y a peut-être un an, j'ai fait la même dynamique. Dynamite, et, mais non, c'est pas dynamite, hein, c'est dynamique.
Mais t'es sûr que c'est pas nous qui avions raison?
Le repasser sur le YouTube, non, parce que j'ai en ralenti.
Non, mais j'ai été voir, surtout j'ai été regarder.
Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais et Ardisson a écrit plein de slogans qu'on connaît tous, hein, genre c'est trop Pico, c'est Ardisson aussi.
Ah, mais c'est ma femme qui m'a dit ça parce qu'elle est suisse. Donc,
quel rapport?
Bah Ovomaltine, c'est suisse. C'est pas ça. Donc je pense que là-bas
c'est dégueulasse. D'ailleurs, c'était dégueulasse là.
Les bars Ovomaltine, c'est pas bon. Par contre, le chocolat. Okay. Non, le chocolat. Non, c'est quoi que j'ai mangé l'autre fois au Ovomaltine? Ah, les gâteaux. Oh là là. Des gâteaux comme des
gâteaux quoi.
Couche de gâteau chocolat, pas ouais. Pas du gâteau mais
génoise.
Du biscuit.
Non, du biscuit chocolat mais couleur chocolat. Ouais. Un chocolat du chocolat au milieu et encore un autre gâteau et ça fait un petit comme ça là. Et c'est tellement bon. Okay. J'ai découvert ça il y a pas longtemps et j'ai
Parce que moi j'ai des souvenirs de Ovomaltine absolument dégueulasses, hein, c'était immonde.
Et ben heureusement parce que ce podcast
c'est pas de la dynamique.
Sponsorisé par Ovomaltine. Voilà, c'est de la dynamique.
Et Ricola. Voilà, c'est la Suisse.
Ah oui, Ricola.
Ça c'est très bon pas.
Alors, j'aimais bien, il n'y avait pas une histoire avec une marmotte à un moment, ça c'était rigolo.
Ça c'est le Milka. C'est
Milka non, marmotte, mais non, pas la marmotte. Puis lui, t'avais une marmotte qui attaquait.
Putain. Il n'a pas pris que 1000 euros. Hein.
Ricola, moi il me semble que c'était un mec dans la montagne qui...
Non, mais il n'y avait pas une marmotte qui l'attaquait à un moment, il n'y avait pas un truc comme ça.
Ah, ça me dit un truc. Genre une petite peluche un peu qui ressemblait à la scène de Monty Python un peu.
Ouais, avec le lapin, ouais. Ouais,
peut-être.
Ouais, je pense que c'est bon.
Bon, bah voilà.
On commence à parler des pubs.
Fais chier.
C'est que c'est le moment de ça. Moi, il faut que j'aille fumer. Hein. Moi, je suis en mode de cuisine.
Vous voulez plugger un truc? Non, mais je pense que là, on a 2 heures. Hein.
Ah ouais.
Bah, ça fait longtemps là qu'on parle.
Oh, putain, j'ai pas.
Ça fait 2 heures.
Bah, déjà, il y a eu 1h45 de Raoult, donc tu vois.
Allez. Est-ce que vous voulez faire de la pub? Car nous sommes bien entendu le 10 octobre aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelque chose qui sort bientôt?
Non, mais on n'a pas de carrière, nous.
Je suis en pleine écriture de mon nouveau spectacle que j'ai quasi fini et que je vais commencer à travailler. Mais avec le Covid, ça a tout. Je devais commencer en janvier dans un petit théâtre pour roder. Et au final, c'est repoussé. J'ai encore, comme toute la mise en scène, je suis très content d'être mis en scène par Marie Guibourg. Je suis très fan de cette personne.
Elle met en scène tout le monde.
Bah, c'est un génie.
Ah ouais, putain.
C'est une génie. Je sais pas si je me fais engueuler si je dis un génie. Mais en tout, moi j'adore son travail, j'ai vu ce qu'elle avait fait.
Est-ce qu'on peut te voir en fin d'année roder des petits trucs du spectacle?
Je vais tester un peu les plateaux. Après, je suis pas fan des plateaux. J'aime bien y aller de temps en temps pour tester un peu des choses, mais je pense que c'est pas non plus l'endroit où il faut créer un spectacle. Non. J'aime bien aller tester en province, faire une heure en province, un peu partout, pour avoir vraiment un truc un peu qui parle cohérent, un peu à tout le monde, cohérent, et qui parle un peu à tout le monde aussi. Et d'ici mars, j'aimerais bien commencer dans un petit théâtre pour roder. Et après, en même temps, tourner. Donc, laisser les week-ends pour tourner un petit peu, par exemple, pour roder. Je voulais pas mettre en rodage parce que j'ai toujours trouvé ça déplacé.
J'ai toujours trouvé ça bizarre.
Excusez-moi. C'est un spectacle qui est pas ouf.
Pour moi, c'est un truc d'humoriste de dire bon, alors si des fois c'est pas marrant, c'est normal, c'est en rodage.
Mais pas ça, c'est juste que je me laisse. Parce qu'en fait, je vais être obligé de marquer soit en rodage, soit une petite connerie autour de en rodage. Parce que je pense qu'il y a un spectacle pour qu'il soit vraiment carré et vraiment, il faut qu'il ait été joué au moins une centaine de fois.
Ouais.
Personnellement, je pense. Le théâtre, en fait, le théâtre, je viens du théâtre des pièces et tout ça, donc les théâtres, il y a une règle un peu, je sais pas si c'est entre nous ou les gens avec qui j'ai joué où c'est vraiment connu, mais il y a un truc de la centième, vraiment un truc où on se dit maintenant on est prêt maintenant, en fait et je pense que le one ça devrait être pareil,
mais aussi toi c'est particulier parce que tu vois moi en fait il y a le côté je refuse le mot rodage mais en stand-up alors que mais toi
c'est un peu, là le prochain c'est un peu entre les deux.
Toi est-ce que tu dans le prochain c'est un truc où t'as quand même un fil rouge comme la vie à l'envers
pas aussi appuyé que la vie à l'envers, parce que la vie à l'envers c'était même plus un fil rouge, c'était une histoire.
C'était
une histoire autour de ça et des personnages et un peu de stand-up parce que j'aime beaucoup la relation avec le public, mais en vrai c'était vraiment une histoire la vie à l'envers, j'étais entre le one man et le seul en scène.
Parce que ça c'est vrai que je vois mal comment tu vois.
Mais parce que
c'est obligé de le jouer quoi.
Parce que le stand-up c'est pareil, le stand-up les 100 fois elles peuvent pas exister parce que vous allez tous dans les plateaux et je pense qu'en 3 mois vous avez joué peut-être 150 fois le texte.
Bien sûr.
Et après vous passez à un autre et un autre et un autre et au final quand vous mettez votre spectacle, sauf que moi je suis pas très fan des plateaux, déjà parce que je pense que le public de plateau est particulier, c'est pas qu'il est je l'aime pas ou je l'aime bien, c'est juste qu'il est particulier parce qu'il va voir spécialement plein d'humoristes et c'est très rare je pense, à part quand ils ont un vrai coup de cœur, ils disent lui je vais aller le voir,
d'avoir le spectacle
et que tu vas flyer, même si et je te jure hein, c'est pas pour être
non, mais oui,
ça m'est arrivé dans des plateaux de vraiment cartonner et de me retrouver le mercredi ou l'autre mercredi ou l'autre, l'autre mercredi, d'avoir même pas 3-4 personnes qui étaient venues de ce soir-là, alors que tu te dis putain, ça a vraiment cartonné, tu te dis fais chier.
Mais parce que là, il faut qu'ils payent, c'est pour ça.
Il y a un petit. Bah, et oui, mais en même temps, c'est logique, c'est la vie aussi.
Ah oui, mais
un
non,
peu
mais
plus,
nous, on est d'accord.
C'est
hein.
Engagement de genre, je vais
exactement.
Voir que ce gars pendant
exactement.
Une heure. Ce qui est compréhensible, parce que
bien
tu sûr. Vois comment nous aussi, on consomme les choses.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que c'est pas un jugement, bien au contraire, c'est juste un fait qui s'avère que j'ai constaté avec le temps. Et en fait, c'est pour ça que j'ai besoin de faire des plateaux et d'aller jouer, tourner, de tester en province et de tester mon spectacle à Paris pendant une heure parce que je veux vraiment voilà, le tester pendant une heure, voir ce qui va, ce qui va pas, en même temps avec ma metteur en scène de voir ce qui va et ce qui va pas. Et ça, c'est une période qui va être assez longue.
Ouais, c'est sûr.
Parce que, mais c'est pour ça que je veux mettre en rodage ou quelque chose pour dire voilà.
Et c'est quoi
le prix de la place sera vraiment pas cher parce que justement,
ça pour le coup, c'est cool.
Voilà,
c'est,
je veux pas que ça soit cher, ça sera 10 euros ou, ou peut-être. Mais ça sera pour ça que ça sera pas cher.
Ouais.
Et c'est ce qui va permettre de pouvoir, en même temps, avec les gens, de dire bah, je le construis avec eux aussi parce que les rires, les machins, on a. Aujourd'hui, on écrit un spectacle. Pour moi, quand tu commences à le jouer, c'est là que le travail démarre.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il démarre vraiment là. L'écriture, ça, c'est un.
Et ça, c'est important de faire ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en gros, qu'il n'y ait pas que le mot en rodage, j'ai aussi le prix.
Oui, ah ouais, oui, bien sûr. Ah, bien sûr. En rodage, mais
c'est quoi le titre ?
Ah, le titre, je l'ai pas encore parce que on est.
Intéressant ça.
Ouais, je l'ai pas. Moi, je pense. Alors, c'est marrant parce que mon premier spectacle, La Vie à l'envers, je l'ai trouvé. Le titre est venu. Sans avoir presque même écrit une ligne, j'avais juste le thème d'accord. De me dire, en fait l'histoire je la raconte dans le spectacle au début, c'est Woody Allen en fait qui a dit j'ai la vie à l'envers, ça serait cool, donc j'ai dit tiens, ça c'est un bon titre déjà. Et le thème de ce truc là, il avait écrit 10 phrases sur la vie à l'envers, et j'ai dit putain, d'en faire un spectacle évidemment développé en rapport avec mon vécu, même si le vieux je l'ai pas vécu, même machin, je me suis toujours pris par rapport à mon grand-père, à mon père, le truc, tu prends un peu tout et c'est à partir de là que que j'ai écrit le spectacle grâce au titre, alors que là pour le coup j'ai écrit le spectacle, ça sera vraiment que des trucs vrais de ma vie que je vais essayer de faire rire avec, et à la fin je pense que je trouverai un titre. J'avais un titre au départ, mais bon, c'était pas, ça sera pas ça en tout cas.
Et ben peut-être qu'il y a un spectateur qui va te donner une idée si tu veux.
Peut-être.
Justine, tu veux nous dire quelle pub tu vas bientôt faire ?
Bah écoute, pour le Front National, s'il me paye 1000 euros, hein,
Mon âme au diable.
Imagine, t'es responsable de genre d'une montée de 1% toute seule du Front National, tellement t'es bonne autrice.
Bah je demanderai plus d'argent surtout. c'est surtout ça.
Vous abonnez sur.
Bah je mets tellement rien. Sur Insta, Twitter, tout ça, même si je mets rien en fait. Moi c'est vrai que je suis tellement une vieille en fait, je me rends compte par rapport à tous les gens qui font des vidéos, qui mettent des trucs, des passages de stand-up et tout. Moi je suis tellement pas ça.
Ouais.
Mais j'ai des photos très mignonnes de mon chien sur mon Instagram si vous voulez.
Tu fais du stand-up aussi.
Et je fais du stand-up et on peut. Ouais. Voilà, après j'écume les caves.
À 20, malheureusement.
Ben merci. Merci à toi.
À
bientôt. Abonnez-vous à leur Instagram et au podcast aussi.
Et toi, attends.
Et toi, t'as quoi
aussi ? Parce que tu vois, t'es toujours comme ça.
Pour lui, il y a une carie achetée, une carie offerte.
si vous abonnez à mon Instagram, il y a mes dates pour tout. Il y a un lien sur mon site où il y a tous les podcasts.
T'arrives à tourner quand même.
Et les dates.
Franchement,
pour l'instant, c'est que des plateaux. Il y a des 30-30 et mon spectacle que je fais bientôt.
Ouais.
Ah bon ?
Mais.
Putain, tu dis rien. C'est.
J'attends que ce soit vraiment bien. Voilà.
Ok.
Au revoir. Au revoir à tous.
Au revoir.
Ah oui, c'est fini aussi. C'est fini.